18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous, bienvenue, très heureuse de vous retrouver. C'est parti pour deux heures d'information, d'analyse, de débat avec nos invités. C'est votre grand journal du soir, un grand journal spécial ce soir à 6h du Brexit. On va vous raconter avec l'accent, en quelque sorte, ces derniers instants du départ du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Grand forum spécial dès 18h20 avec de nombreux invités autour de moi dans ce studio. On va vous dire concrètement ce que cela va changer à terme pour les biens, les personnes, les entreprises, les étudiants. Grand forum auquel vous pourrez participer au 39-21. Nous serons bien sûr en Angleterre, dans un instant, dans votre journal Sébastien Krebs. Bonsoir Sébastien.
Good evening, bonsoir
Nathalie,
salut, bonsoir
l'a fait. À tous. Et à la une également ce soir, un des premiers Français rapatriés présente des symptômes du coronavirus, direction les Bouches-du-Rhône dès le début de cette édition. Et puis vous dormez mal en ce moment, on va vous donner des conseils très pratiques dès 19h30 avec un livre qui vient de sortir, recensant tous les bons remèdes, je peux vous dire qu'ils sont affichés en gras sous mon nez, toute l'info et bien plus, c'est dans votre grand journal du soir. On écoute ensemble le monde changer jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Cette personne a été directement transférée à l'hôpital de la Timone et elle sera testée évidemment et nous aurons les résultats dans la journée.
Des symptômes dans l'avion du retour, un cas suspect au moins parmi les rapatriés français envoyés à l'hôpital. Les autres s'installent ce soir à Carilroué pour deux semaines de quarantaine.
Que sait-on vraiment de ce coronavirus à ce stade? De nouveaux éléments scientifiques avec Mélanie Gomez dans ce studio dans un instant.
Le jour du divorce est donc arrivé, le Brexit devient réalité ce soir à minuit et le Premier ministre Boris Johnson l'a fêté dans le nord de l'Angleterre.
C'est super qu'il soit là. On a voté pour lui et c'est vraiment bien pour les gens du Nord-Est qu'ils viennent nous voir.
Nos envoyés spéciaux à travers le Royaume-Uni et à Bruxelles tout au long de cette édition, notre forum jusqu'à 19h.
Dans ce journal également, le goût de l'eau salée. Édouard Philippe, candidat, lance sa campagne au Havre avec un petit comité d'accueil.
Monsieur Édouard Philippe, on n'en veut pas au Havre. C'est pas la peine qu'il revienne nous voir, il a qu'à rester à Paris avec monsieur Macron.
On fera réagir Nathalie Loiseau, députée européenne Renaissance La République En Marche à 19h10. Mon invité dans ce studio, enfin Les Souliers Rouges, le nouveau spectacle musical écrit par Marc Lavoine débute ce soir aux Folies Bergères.
Un nouveau recul à la Bourse de Paris ce soir qui perd 1,1%, le CAC 40 à 5806 points.
Et la tendance météo, Anissa. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Alors demain, pour ce premier jour du mois de février, eh bien au programme, ça sera encore de la pluie avec une nouvelle perturbation qui arrive. Pas pour tout le monde, il y aura de beaux rayons de soleil et surtout une très grande douceur demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Des cars encadrés par la gendarmerie au pied de l'avion. Ils sont 180 ressortissants français à avoir atterri en début d'après-midi sur la base militaire d'Istres dans les Bouches-du-Rhône, rapatriés par la France depuis Wuhan, berceau chinois de l'épidémie du coronavirus. Nathalie Chanvance, bonsoir. Vous êtes notre correspondante sur place. On sait ce soir qu'au minimum, l'un des passagers présente des symptômes.
Oui, au moins un cas suspect. Le premier a été confirmé par la ministre de la Santé en début d'après-midi. Et un deuxième cas a été signalé ce soir par le professeur Raoult, qui est le responsable de l'IHU à Marseille, le pôle des maladies infectieuses, où sont transférés justement les patients qui présentent des symptômes, ce qui serait donc le cas pour deux personnes, de jeunes garçons d'une vingtaine d'années, qui toussent, qui mouchent, des symptômes qui se seraient déclarés pendant le vol, car hier soir, les autorités françaises affirmaient que tous les rapatriés étaient sains. La procédure, c'est donc l'isolement pour tout cas suspect, comme l'explique la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.
Ce qui est recommandé, c'est de tester les gens lorsque des symptômes se déclarent. Donc s'il y a aujourd'hui une personne qui présente des symptômes, et il y en avait une dans l'avion, cette personne a été directement transférée à l'hôpital de la Timone et elle sera testée évidemment et nous aurons les résultats dans la journée.
Quant aux autres rapatriés qui ne présentent pas de symptômes, ils se sont engagés par écrit à respecter un protocole d'isolement de 14 jours très strict dans le centre de vacances de Carilroué, port du masque obligatoire en dehors des chambres, obligation de se soumettre à une surveillance clinique deux fois par jour avec prise de température au moindre signe. Parmi ces 180 Français éprouvés, fatigués, il y a beaucoup de familles avec des enfants, des bébés, désormais sous la surveillance d'une équipe de la réserve sanitaire qui restera elle aussi à l'isolement pendant deux semaines.
Nathalie Chevance en direct, correspondante d'Europe 1 dans les Bouches-du-Rhône.
Et bonsoir Mélanie Gomez. Bonsoir. Spécialiste santé d'Europe 1. Hier, l'OMS a déclaré l'urgence internationale. Vous avez de nouveaux éléments scientifiques, vous, ce soir. Que sait-on de la dangerosité du virus?
Eh bien, aujourd'hui, les experts de l'INSERM et de l'Institut Pasteur nous ont fait une mise au point, justement, sur les derniers éléments découverts sur ce virus. On commence, par exemple, à en savoir plus sur son niveau de contagion. Le coronavirus serait un peu plus contagieux que la grippe saisonnière. Pour vous donner une idée, la grippe, un patient infecté, peut contaminer en moyenne une à deux personnes. Avec le coronavirus, c'est plutôt deux. Résultat, il est à peu près aussi contagieux que le SRAS, mais beaucoup moins que la rougeole. La rougeole, un malade peut infecter jusqu'à 15 personnes. Ensuite, on en a aussi appris un peu plus sur son délai d'incubation. Il serait moins long que ce que l'on pensait. En gros, un patient infecté mettrait 5 jours en moyenne avant d'avoir des symptômes. Et puis, pour terminer, et c'est la bonne nouvelle de la journée, les enfants seraient plutôt épargnés par le coronavirus. En fait, si on regarde dans la dernière série de 400 malades hospitalisés qui a été publiée dans une grande revue scientifique, il n'y a aucun enfant de moins de 15 ans. Alors selon les experts, ça ne veut pas dire non plus qu'ils ne peuvent pas l'attraper du tout. Mais en tout cas, l'hypothèse à ce jour, c'est que les plus jeunes développeraient plutôt des formes peu graves, voire même sans aucun symptôme.
Mélanie Gomez, merci. On vous retrouve bien sûr tous les jours à 15h dans Sans Rendez-vous, votre émission santé sur Europe 1. Et puis autres éléments communiqués aujourd'hui. Plusieurs pistes de traitement sont déjà à l'étude et l'Institut Pasteur annonce une avancée majeure dans la mise au point potentielle d'un vaccin.
On retient aussi les remords, Sébastien, les remords d'un dirigeant chinois de la ville de Wuhan.
Je suis envahi par un sentiment de culpabilité, dit-il. Il regrette d'avoir tardé à réagir.
Il est 18h05 sur Europe 1, la suite du journal Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Le compte à rebours est enclenché dans 6 heures maintenant. Le divorce sera effectif. Le Royaume-Uni ne fera plus partie de l'Europe. On va vous le raconter, bien sûr.
La fin d'un long feuilleton depuis le référendum de 2016. La fin de 26 ans aussi d'une relation européenne pas toujours facile. Nous sommes ce soir dans le nord-est de l'Angleterre. C'est là que Boris Johnson a voulu marquer le coup. Pauline Jacquot, vous êtes notre envoyée spéciale à Sunderland. Le Premier ministre britannique a choisi très symboliquement cette ville désindustrialisée et qui a massivement voté pour le Brexit.
Oui, avec un score de 61%, inutile de vous dire que Boris Johnson a été très bien accueilli dans cette ville. 3 ans et demi après le référendum, il était ici pour dire « ça y est, j'ai tenu ma promesse, vous avez voulu le Brexit, et bien aujourd'hui, c'est chose faite ». Devant les grilles, Hélène et Gladys sont venues l'applaudir.
On a été la première ville à sortir nos résultats en faveur du Brexit le jour du référendum, alors c'est super qu'il soit là. On a voté pour lui et c'est vraiment bien pour les gens du Nord-Est qu'ils viennent nous voir.
C'est le dernier endroit où je pensais qu'il allait venir aujourd'hui. Pour nous, c'est un privilège.
Mais les habitants attendent aussi beaucoup désormais du Premier ministre dans un territoire, dit Franck, qui a été trop longtemps abandonné par les différents gouvernements.
J'espère qu'il va faire venir des investissements ici dans le Nord-Est. Ce que les autres premiers ministres n'ont jamais fait. Nous ici, nous n'avons que l'usine Nissan, rien d'autre. Toutes les aides vont au sud du pays, dans la région de Londres. Nous, on a été complètement oubliés.
Les choses doivent changer rapidement. On compte vraiment sur lui, dit-il. Mais pour le moment, il est temps de célébrer ce jour d'indépendance, saurait-il. Direction, évidemment, le pub pour trinquer au Brexit Day.
Pauline Jacquot, envoyée spéciale d'Europe 1 à Sunderland. Et à Londres, les deux camps se rassemblent ce soir, chacun dans leur coin. Les pro-européens organisent une veillée au bord de la Tamise. Le pro-Brexit Nigel Farage, qui était ce matin sur Europe 1, vous l'avez entendu, lui fêtera l'événement avec ses partisans au pied de Big Ben, qui ne sonnera pas car il est en travaux.
Toujours. On file maintenant à Bruxelles. Bonsoir Isabelle Horry.
Bonsoir.
Comment est-ce que cette bascule est vécue au sein des institutions européennes ?
Eh bien, la soirée s'annonce très très calme ici. Aucune cérémonie, pas de décompte. À l'heure qu'il est, le drapeau britannique flotte encore aux côtés des autres devant le Parlement européen. Il va être retiré dans la nuit, mais ça ne sera pas à minuit pile. Le Parlement ne veut pas d'une image en direct sur toutes les chaînes de télévision. Ce qui se passera à minuit pile, en revanche, c'est que les badges des représentants de la Grande-Bretagne seront désactivés. Plus d'accès au Conseil, là où se réunissent au quotidien les diplomates des pays membres de l'Union européenne, jusqu'à la cafétéria, qui leur est désormais interdite. L'administration européenne a envoyé des mails à ceux qui restent. Ils ne doivent plus partager d'informations avec les Britanniques. Ils doivent les retirer de leur liste de diffusion, de leur groupe WhatsApp. Ne faites pas répondre à tous à partir d'anciens mails. Va jusqu'à recommander l'administration. Alors c'est ça aussi le Brexit. Ça peut paraître très administratif, mais derrière, ce sont des dizaines de liens professionnels et amicaux qui se coupent. Il y a des larmes dans les bureaux, m'a confié tout à l'heure une fonctionnaire européenne.
Voilà une page qui se tourne à Bruxelles avec vous en direct, Isabelle Horry.
Et vous restez avec nous, Isabelle. On se retrouve dans un petit instant dans votre grand forum, juste après ce journal, un grand forum spécial Brexit, vous l'aurez compris, jusqu'à 19h, avec des invités, des éditorialistes, le président de Paris Choose France, le journaliste Marc Owen, Emmanuel Dutheil du service économie d'Europe 1. On va répondre ensemble à cette question. Et maintenant, que va-t-il se passer dans vos vies, dans votre quotidien pour les entreprises, pour les citoyens.
Puisque des longues négociations s'engagent désormais sur la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Enfin, dernière information, Emmanuel Macron a prévu de s'exprimer depuis l'Élysée ce soir, d'ici à peu près 5 ou 6 minutes, 18h15. Voilà ce qui est prévu ce soir.
On va l'écouter.
Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Un Premier ministre en campagne également ce soir, premier meeting d'Édouard Philippe qui lance sa course à la mairie du Havre. C'est à suivre dans notre édition de 18h.
Et puis le Conseil d'État retoque Christophe Castaner qui voulait gommer les étiquettes politiques des futurs maires.
2 heures d'info, c'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h11 sur Europe 1, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Premier ministre et candidat. Édouard Philippe se lance donc comme tête de liste dans la course à la mairie du Havre, la ville qu'il a dirigée, à laquelle il est très attaché. Il l'a dirigée jusqu'en 2017.
Oui, candidat, mais sans intention d'être maire, puisqu'il a déjà prévenu qu'il souhaitait rester à Matignon. Claudia Bertram, vous êtes sur place. Premier meeting ce soir avec un certain comité d'accueil.
Oui, ici les manifestants sont déjà nombreux quai Southampton avec drapeaux et sifflets. Ils s'apprêtent à s'élancer en direction de la salle où Édouard Philippe tient son premier meeting d'ici une heure. Un lancement de campagne sur fond de mobilisation contre la réforme des retraites. Au Havre, le rejet de la réforme est particulièrement fort. Le port est régulièrement bloqué et ces manifestants voteront avant tout contre le Premier ministre.
Monsieur Édouard Philippe, on n'en veut pas au Havre. Sa loi pour les retraites, non, c'est pas la peine qu'il revienne nous voir. Il a qu'à rester à Paris avec Monsieur Macron.
Déjà, la candidature, elle passe pas bien au niveau des Havrais par rapport à tout ce qu'il met en place en termes de réforme. Donc je pense qu'il va y avoir des votes sanctions, ça c'est clair. Ça va être assez dur pour lui.
Un vote sanction donc pour certains Havrais. Pour une partie de la population, l'ancien maire de la cité portuaire est toujours plébiscité.
On est assez content de lui au Havre. La ville a beaucoup évolué en bien. Il n'aura aucun mal à se faire réélire.
Élu dès le premier tour en 2014, la campagne d'Édouard Philippe s'annonce toutefois plus compliquée cette année.
Claudia Bertram, envoyée spéciale d'Europe 1 au Havre.
Le gouvernement qui essuie un revers dans cette préparation des municipales, une circulaire signée par Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a été retoqué aujourd'hui par le Conseil d'État.
Bonsoir Jean-Gabriel Bourgeois.
Bonsoir.
Le ministre de l'Intérieur qui voulait supprimer les étiquettes politiques des maires dans la plupart des communes, et bien les juges ont dit non.
Oui, c'était l'une des dispositions symboliques de cette circulaire. Effacer le nuançage politique dans les villes de moins de 9000 habitants. Problème, cela représente 97% des communes en France, plus d'un électeur sur deux. Et cela voulait dire que seulement 3% des municipalités auraient été étiquetées, LR, PS ou RN par exemple. Des grandes villes, là où l'AREM a obtenu ses meilleur score lors des précédents scrutins. C'est ce que pointent notamment de nombreux observateurs politiques et c'est justement sur ce seuil de 9000 que le Conseil d'État a tiqué. L'opposition dénonçait une magouille électorale pour masquer de mauvais résultats du parti présidentiel au municipal. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste.
Ça n'est pas normal de laisser penser que dans une démocratie, vous avez la moitié des Français qui peuvent voter sans créer de conséquences, sans qu'on puisse lire le message qu'ils adressent au pouvoir. Et donc, c'est un tripatouillage politique. Évidemment, c'était une façon de masquer la défaite annoncée de La République En Marche. Il fallait évidemment que le droit rétablisse la possibilité pour chacun d'être entendu.
À 43 jours du premier tour des municipales, il va falloir que le ministère de l'Intérieur revoie sa copie. Christophe Castaner a déjà annoncé que la circulaire sera modifiée très rapidement, sans renoncer, dit-il, à répondre aux demandes des élus locaux et à correspondre aux mutations du paysage politique français.
Jean-Gabriel Bourgeois du service politique d'Europe 1.
Bataille rangée en vue à l'Assemblée sur la réforme des retraites. Un chiffre, ce soir pour vous donner une idée. L'opposition a déposé 22 000 amendements, un record depuis 2017. L'essentiel proviennent de la France insoumise, pour être exact.
Airbus va payer 3,6 milliards d'euros pour clore les enquêtes judiciaires qui le visent, enquête pour corruption. C'est une transaction qui a été annoncée aujourd'hui avec la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne.
Après les accusations de la patineuse Sarah Abitbol, les aveux de son ancien entraîneur aujourd'hui.
Gilles Bayer reconnaît avoir eu des relations intimes et inappropriées avec elle. Il se dit sincèrement désolé, je cite, et lui présente des excuses.
Sarah Abitbol évoquait une période entre ses 15 ans et ses 17 ans. Les sports justement, pour être plus large bien sûr, avec quelques cocoricos en tennis à l'Open d'Australie.
D'abord la victoire de Kristina Mladenovic en double avec sa partenaire hongroise. Elles ont survolé la finale, c'est leur troisième titre en Grand Chelem. Et puis en catégorie junior, bien deux Français vont se retrouver face à face, Harold Maillot, Arthur Cazot, tous les deux ont 17 ans. Un peu de musique pour terminer, Nathalie, avec les Souliers Rouges, nouveau spectacle musical sur scène ce soir au Folies Bergères à Paris. C'était un album à l'origine, inspiré d'un conte d'Andersen avec Cœur de pirate, Arthur Ashe et Marc Lavoine qui l'a décliné sur scène.
Je sais que c'est perdu d'avant.
C'est un maître de ballet qui est un petit peu à la fin de sa vie. De là-haut, on lui envoie une paire de chaussons magiques qui peuvent faire de celle qu'il apportera la plus grande des étoiles. Il faudra qu'elle signe un pacte pour refuser l'amour.
S'il faut renoncer à l'amour.
Le livre, ça m'a beaucoup intéressé. J'y ai trouvé des correspondances avec le... Évidemment, c'est intemporel. Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que l'amour... est-ce qu'on doit... voilà, renoncer à l'amour pour réussir sa vie. Et ça m'a accroché à plein de choses qui étaient dans ma mémoire. Je suis très anxieux parce que 10 ans de travail, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est nécessaire.
Je voulais vous rencontrer.
Les Souliers Rouges, c'est donc jusqu'au 19 avril au Folies Bergères.
Voilà, création musicale. Donc, merci beaucoup Sébastien Krebs. Revenez tout à l'heure à 18h30. Anissa, encore de la pluie demain. C'est un temps britannique, british?
Oui, presque un temps british, effectivement, pour demain, avec une nouvelle perturbation qui traverse la France. Alors, comment ça va se passer? Demain matin, du nord au sud-ouest, en passant par la région parisienne, le centre-val de Loire, le Limousin et l'Occitanie, eh bien là, les pluies seront assez soutenues en début de journée. Et puis à l'avant de cette perturbation, c'est-à-dire sur un quart sud-est, sur la vallée du Rhône, le Languedoc-Roussillon, même une petite partie de la Franche-Comté, là ça sera beaucoup plus sec et ensoleillé. Et puis au fil des heures, cette perturbation, elle va se décaler et grappiller vers l'est dans l'après-midi. Donc c'est de l'Alsace, au sud du Massif central, que les pluies seront présentes. Attention tout de même, avec le redoux, avec les chutes de pluie, le risque d'avalanche est très important sur les Alpes, donc prudence si vous comptez chausser les skis ce week-end. Sur le nord, sur les côtes normandes, les côtes de la Manche, la Corse, la Gironde et le relief de l'Est, là c'est le vent d'ouest qui souffle jusqu'à 70 km/h. Tiens, un mot sur les températures qui restent stationnaires. 2 degrés demain au Puy-en-Velay, 4 à Aubenas, 7 à Marseille, 11 degrés pour Paris le matin. Dans l'après-midi, 11 à 17. Aurillac, 11 degrés, 12 à Lille, 14 à Paris, 16 à Montluçon. Dimanche, les mêmes températures. Lundi, on va passer la barre des 20 degrés. Et à partir de mercredi, on va perdre plus de 10 degrés. Il y a une vraie baisse des températures en milieu de semaine prochaine.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec ce soir un grand forum pour les auditeurs d'Europe 1.
It's well worth a big forum special. Bravo. On va s'arrêter là. Le Brexit, c'est dans moins de 6 heures maintenant. Un grand forum spécial, donc vous l'avez compris. Quelles vont être les conséquences très concrètes pour nous, pour les entreprises, pour les étudiants? On va répondre à toutes ces questions avec mes invités. Ils s'installent dans ce studio d'une minute à l'autre.
Et vous pouvez vous aussi participer à ce grand forum. C'est simple, pour poser vos questions en direct et réagir, c'est le 3921, le standard d'Europe 1, ou Twitter avec le hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et avec ce soir un grand forum spécial Brexit. Autour de vous, Franck Margen, le président de Paris Choose France, Marc Owen, journaliste France 24 en Angleterre, Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1, et Isabelle Horry en direct depuis Bruxelles.
Bonsoir à tous, bienvenue dans ce studio, welcome.
Bonsoir.
23h, heure de Big Ben, le Royaume-Uni sortira de l'Union Européenne, la période de transition entrera en vigueur. Que nous réserve l'ère post-Brexit, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble très concrètement hein, pendant presque trois quarts d'heure. À l'heure où nous parlons, Emmanuel Macron prend la parole aussi et dit des choses très fortes. Ce départ, c'est un signal d'alarme historique. Nous n'avons pas assez changé notre Europe. Plus que jamais, nous avons besoin d'Europe. Emmanuel Macron, avec une mine grave, qui ce soir, on le sait, prend toute la dimension de ce départ qu'il ne voulait pas, qu'il redoutait. Je vous interroge là-dessus, Marc Owen, d'abord parce que vous êtes journaliste et vous y attendiez à ce ton, à cette phrase d'Emmanuel Macron, à ce...
Carrément non, parce
carrément
que...
Carrément non ?
Ah mais non, parce que... Pour moi, je comprends ce qui se passe en Angleterre aujourd'hui, c'est comme en Grande-Bretagne aujourd'hui, c'est comme quelque chose d'historique mais banal en même temps parce qu'il n'y a quasiment rien qui se passe pour fêter ni pour faire le deuil. Quoi.
C'est symbolique.
Oui, ça arrive, quoi. Ça arrive, ça va passer, ça va arriver, mais on regarde tout ce qui se passe après. Mais je crois que M. Macron, il y a toujours un sens de théâtre, un sens de mots qui pèsent, de mots justes. Donc,
mais parce qu'il y a laissé un peu ses plumes d'une certaine manière. Il s'est tellement investi. C'est ça aussi, c'est une manière.
Peut-être c'est ça, oui. Parce que c'est quasiment le leader aujourd'hui de l'Europe. C'est ça. Il prend le bâton de Merkel, il commence comme ça. Donc c'est lui qui mène aujourd'hui. Donc oui, forcément, c'est sa voix qui compte.
Donc, et pour lui, c'est d'autant plus grave, donc, évidemment, même s'il le savait, même si aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est un symbole, et même si c'est aussi une forme d'échec pour Emmanuel Macron. Alors on va se regarder, évidemment, point par point, comment ça va se passer dans les prochaines heures. D'abord, Marc Cohen, que se passera-t-il exactement ce soir à 23h ? Rien alors, c'est ça ?
Quasiment rien. Il y aurait certains gens qui vont faire la fête, certains gens qui vont faire l'inverse, voilà. Et je connais des gens des deux camps. Ça divise des villes, ça divise des familles, ça divise tout le monde en Angleterre complètement.
Voilà. Mais les cloches de Big Ben ne sonneront pas parce que Big Ben est en travaux depuis un moment, déjà largement avant l'été. Oui. Exactement. Emmanuel Dutheil.
Moi, je trouve que c'est dangereux de dire rien, puisqu'on vit malgré tout un moment historique. C'est la toute première fois de l'histoire européenne qu'un pays quitte l'Union européenne. Donc certes, maintenant il faut négocier les termes du divorce, mais c'est quand même bien la première fois qu'un divorce est acté et cette date sera historique. C'est-à-dire qu'il y aura trois dates historiques.
C'est vrai.
Il y aura la date de 2016, il y aura la date de ce soir et il y aura la date effective de l'entrée en vigueur.
C'est vrai.
Aujourd'hui, on vit quand même un moment historique. Et je trouve, pour revenir, pardonnez-moi, je vous coupe juste une seconde, mais pour revenir sur les propos d'Emmanuel Macron, c'est en cela où je pense qu'il a voulu acter quand il dit c'est un jour triste, aujourd'hui c'est un jour qui nous pousse à repenser, à faire l'Europe différemment, c'est un jour qui nous pousse à retrouver le fil de cette histoire. Et il termine en disant vive l'Europe, il envoie un message très clair en disant il y en a un qui sort, et de son point de vue, hein, il faut que ce soit le dernier. Donc moi je trouve que quand même, c'est un jour historique.
C'est un jour historique et c'est un choc, même si effectivement on est dans le symbole aujourd'hui, parce que concrètement, pas de conséquences. Écoutons Emmanuel Macron.
Je ne suis pas à l'aise avec ce qu'il se passe aujourd'hui. C'est vraiment dommage quand même, parce qu'on fait partie de l'Europe.
Alors on va écouter Emmanuel Macron, c'était chose promise, chose due, c'est le président qui va s'adresser à nous. Alors, on va l'entendre dans quelques instants, c'est promis. Le président Macron qui continue à nous dire avec conviction que c'est un signal d'alarme historique. Avançons, si vous le voulez bien, parce que je voudrais qu'on regarde un petit peu, étape par étape, ce qui va se passer. Donc, concrètement, rien pour ce soir, mais quand même, il y a des inquiétudes et il y a des raisons d'être inquiet. Regardons du côté des entreprises, pour commencer avec vous, Franck Marguin. Vous êtes président de Paris Choose France, agence de promotion et d'aide à l'installation des entreprises. Qu'est-ce qui est mis en place typiquement pour accueillir les entreprises britanniques? Est-ce qu'elles vont venir en nombre? Est-ce qu'elles sont déjà arrivées? Qu'est-ce qui est mis en place?
Déjà, on a beaucoup de choses qui sont mises en place. Je rappelle que tout ce que je vais dire ici à ce micro ne témoigne pas du tout de satisfaction du Brexit. Bien au contraire, j'ai fait partie des gens qui sont d'ailleurs encore très tristes de voir que les Anglais ont décidé de quitter la grande famille européenne. Ceci dit, mon travail à la région, c'est d'accueillir. Mm-hmm. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises britanniques ont la nécessité, par la loi, et la nouvelle régulation de s'installer sur le continent européen pour des problématiques en fait commerciales. Et donc dans cette bataille, nous sommes en concurrence avec Milan, Berlin, avec donc je pose le oui. débat. Alors qu'est-ce qui est fait? Tout d'abord, on a fait un très gros travail avec Madame Pécresse. Nous avons déjà offert une formation bilingue. Nous avons ouvert des classes bilingues dans les collèges et dans les classes primaires. Mmh. Et nous avons ouvert deux lycées supplémentaires internationaux. Et à la fin de la mandature, donc 2021, nous aurons 9 lycées internationaux. Et la raison principale, c'est lorsque nous visitons des directions de ressources humaines en Angleterre, la première chose que les directions des ressources humaines nous ont dit, quelle est votre offre d'enseignement bilingue pour nos cadres?
Alors, 3000 sociétés françaises installées outre-Manche, Emmanuel, vous me dites si je me trompe, 30 000 qui exportent, c'est ça à peu près le chiffre. Comment ça va se passer alors concrètement en termes de droits de douane?
Un énorme travail va commencer pour elles, pour toutes celles qui exportent. C'est-à-dire qu'il va véritablement falloir regarder au fur et à mesure des discussions qui vont être menées entre les Européens et la Grande-Bretagne, les nouvelles dispositions. Logiquement, il devrait effectivement y avoir des droits de douane. Mais c'est pas encore certain.
Et pas pour tout de suite, en plus.
Non, mais dans tous les cas, rien ne va se passer d'ici à la fin de l'année. Là-dessus, il faut être très clair. Mais on ne sait pas encore. Et c'est le point le plus important, parce que la Grande-Bretagne, on sait très bien ce qu'elle veut. C'est sortir de l'Union européenne, mais garder tous les avantages de l'Union européenne. Donc ils vont se battre pied à pied pour essayer, par exemple, d'avoir pas de droits de douane, le moins de droits de douane possible, des droits de douane sur Alors, sur des secteurs limités. Donc, c'est en cela où les entreprises françaises qui exportent vont devoir regarder quasiment mois par mois comment ça va se passer. Et elles sont aidées, là, si elles le veulent aussi, par le ministère de l'économie qui a mis en place tout un diagnostic.
Alors, Marc Owen, vous souriez. Dites-nous pourquoi. Parce que les avantages qu'on veut garder.
Ouais, je trouve que c'est comme on dit en anglais, on veut avoir le gâteau et le manger en même temps.
Enfin, j'en connais un autre, Boris Johnson, qui a dit aussi qu'il voulait le beurre, l'argent du beurre et le reste. Pardonnez-moi.
Et l'autre.
Et voilà.
Non, exactement. Oui, c'est ça qui est super garçon pour moi, parce que les gens qui veulent rester, ils voient les avantages. Mais si on pose la question, même aujourd'hui, à quelqu'un qui a voté pour le Brexit, ils n'ont pas vraiment une idée claire de ce que c'est. Mais ils cherchent simplement à blâmer quelqu'un pour avoir une raison pourquoi la vie ne marche pas. Donc Bruxelles est devenue, pendant ces 4 dernières décennies, le bouc émissaire. Pourquoi ça ne marche pas en Angleterre, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni? C'est un peu comme ça. Et c'est pour ça que je souris. Parce que j'entends ces voix-là.
Mauvais esprit, c'est ce que vous dites.
Je n'aime pas le dire parce que je parle de mon pays, mais oui.
Mais il va y avoir deux points extrêmement intéressants, puisqu'il faut voir que Boris Johnson a une mission interne de relancer son pays, puisque le Brexit avait envoyé quel signal? Il avait envoyé un signal de déclassement et d'une société qui était en train de se déliter complètement en Grande-Bretagne. Donc peut-être que la Grande-Bretagne, paradoxalement, va totalement bénéficier de ce Brexit, parce qu'il va lancer une politique d'infrastructure, de grands travaux, etc.
Il espère.
On se retrouve dans une petite seconde, on va entendre le président Macron, il l'a dit, ce départ est un choc, c'est un signal d'alarme historique qui doit retentir dans chacun de nos pays. Il se rendra très vite, en Grande-Bretagne, il le dit ce soir. On va l'entendre et on va rejoindre Isabelle Horry également depuis Bruxelles. À tout de suite.
Et votre grand journal du soir, Grand Forum Brexit, c'est avec Nathalie Lévy sur Europe 1. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Et un signal d'alarme, les mots d'Emmanuel Macron ce soir à quelques heures du divorce avec le Royaume-Uni. Il regrette le Brexit dans une allocution diffusée il y a quelques minutes depuis l'Élysée. Écoutez.
Ce départ est un choc. C'est un signal d'alarme historique qui doit retentir dans chacun de nos pays, être entendu par l'Europe tout entière et nous faire réfléchir. Car en effet, pour la première fois en 70 ans, un pays quitte l'Union européenne. C'est un jour triste, ne nous le cachons pas. Mais c'est un jour aussi qui doit nous conduire à procéder différemment, à bâtir avec plus de détermination encore une Union européenne puissante, efficace et qui parvienne à vous convaincre davantage et à retrouver le fil de cette histoire qui fait de l'Union européenne une aventure unique et à mes yeux irremplaçable. Vive l'amitié entre le Royaume-Uni et la France. Vive l'Europe. Vive la République et vive la France.
Emmanuel Macron, il y a quelques minutes, allocution diffusée depuis l'Élysée. Le Brexit sera effectif ce soir à minuit, ouvrant une période de 11 mois de négociations sur la relation future. Partons à Londres. Maintenant, Théo Manval, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux. Vous avez passé une partie de la journée à la City. Comment réagit ce soir la plus grande place financière d'Europe ?
Eh bien, des salles de marché animées, avec leurs traders, un téléphone collé à chaque oreille, hurlant des prix, donnant des ordres. Mais scène finalement digne d'une journée classique. La livre sterling est en légère hausse. L'indice FTSE baisse en revanche, moins 1,3%. Peter Childs est le chef des opérations de trading au London Metal Market.
Ça a été plutôt calme aujourd'hui parce que l'incertitude du Brexit a eu un vrai impact l'année dernière, mais c'est fini maintenant. On sort de l'UE à minuit, tout le monde le sait, ce n'est pas un tremblement de terre. Il y a eu une toute petite baisse ce soir, mais c'est plutôt lié au coronavirus.
Mais c'est à moyen terme qu'il y a encore de l'inquiétude. La Banque d'Angleterre a revu à la baisse hier ses prévisions de croissance pour cette année, ramenées à 0,8%, ce qui serait inférieur à la croissance de la zone euro, explique Yanis Logosatis, banquier d'affaires à la City.
Clairement, on attend de voir quel sera l'accord trouvé avec l'Union européenne à la fin de la période de transition en décembre. Maintenant, c'est à Boris Johnson et au gouvernement de jouer. Je l'espère, les choses vont s'améliorer.
Voilà, quel rapport commerciaux avec l'Europe, mais aussi avec les États-Unis. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est venu hier encore à Londres faire la réclame de ce fameux deal à venir, sans donner plus de précisions.
Théo Manval, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. Londres. Du côté de la bourse de Paris, le CAC 40 a perdu 1%. Inquiétude plutôt liée au coronavirus. Les 180 Français rapatriés de Wuhan en Chine sont arrivés aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône. Au moins une personne a présenté des symptômes dans l'avion et a été dirigée vers l'hôpital. Les autres partent pour 2 semaines de quarantaine. Édouard Philippe, candidat au Havre, lance sa campagne. Premier meeting ce soir. Par ailleurs, François Bayrou annonce qu'il est candidat à sa propre succession à Pau. Et puis un protagoniste clé de l'enquête sur les soupçons de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. L'homme d'affaires Alexandre Djouri a été mis en examen aujourd'hui pour corruption active. Il avait été arrêté au Royaume-Uni et a été remis hier soir aux autorités françaises.
Sébastien Krebs, l'info avec vous à 19h de retour. Du soleil au sud, Anissa, pour la météo.
Oui, alors c'est pas le soleil qui va l'emporter demain, mais vu qu'on voit un petit peu de jaune sur la carte, on va s'attarder là-dessus.
Oui, il verra à moitié plein.
Effectivement, tout c'est l'optimisme, qu'est-ce que vous voulez. Dans la vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, un petit peu sur la Franche-Comté et tout le long du littoral méditerranéen et même sur la Corse. Demain, le soleil sera là avec de belles éclaircies, surtout l'après-midi, après la dissipation des brumes matinales. Parce qu'attention, il va y avoir des brumes matinales, donc vous allez vous réveiller, vous allez dire, on nous a dit sur Europe qu'il allait faire beau. Rassurez-vous, dès que les brumes disparaissent, le soleil sera là de retour. Partout ailleurs, c'est une autre salade, puisque là, vraiment, c'est une nouvelle perturbation qui arrive sur la France. Elle va traverser toute la France, cette perturbation. Alors, le matin, à l'ouest, vous aurez des pluies soutenues. Et puis, à l'est, ça sera bien plus soutenu dans l'après-midi. Attention aussi dans les Alpes, si vous comptez aller skier ce week-end, le risque d'avalanche est encore fort sur les Alpes ce week-end. Les températures sont en hausse. Voilà pourquoi les avalanches seront vraiment très présente ce week-end. 2 au Puy-en-Velay, 9 à Besançon, 13 à Biarritz. C'est dans l'après-midi, 11 à 17 degrés.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir avec jusqu'à 19h, Nathalie, le grand forum
oui,
du soir.
On va se retrouver avec nos invités, Franck Marguin, président de Choose Paris Région, Marc Owen, journaliste de France 24, Angleterre, Tim Richardson, conseiller municipal d'Emet. C'est une petite commune de Dordogne et je peux vous dire qu'en Dordogne, on est quand même assez frileux avec ce Brexit. Et Isabelle Horry est avec nous depuis Bruxelles, Emmanuel Dutheil dans ce studio, notre chef du service économie. On se retrouve dans une seconde.
Votre grand journal du soir, c'est avec Nathalie Lévy sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et un grand forum spécial Brexit ce soir jusqu'à 19h avec autour de vous Nathalie ce soir Franck Marguin, il est le président de Choose Paris Région, Marc Owen, journaliste de France 24 en Angleterre, Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1 et Isabelle Horry en direct depuis Bruxelles.
Et c'est elle qu'on rejoint à Bruxelles, Isabelle Horry, bonsoir.
Rebonsoir Nathalie.
Oui, rebonsoir parce que ça y est, on va entrer de plein pied à minuit, entrer de plein pied dans cette période de transition qui va durer un certain nombre de mois. Expliquez-nous comment ça va se passer, combien de temps et sur quoi elle va porter cette période de transition parce que ça y est, là, on flirte avec.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que jusqu'à présent, on a négocié un divorce. C'est-à-dire que les 3 dernières années, c'était vraiment des négociations qui servaient à liquider les 47 ans de vie commune. C'est-à-dire qu'on s'est occupé de garantir les droits qui étaient des gens qui habitaient au Royaume-Uni. On s'est occupé de régler les factures. Voilà, tout ça, c'est ce qui va entrer en vigueur ce soir. Mais maintenant, il faut définir l'avenir de la relation entre la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni. Et la période de transition, elle doit servir à faire ces négociations-là. Donc, concrètement, vous l'avez dit tout à l'heure, rien ne change pour le moment au niveau des droits et des devoirs du Royaume-Uni. C'est-à-dire que les droits des citoyens qui habitent sur place sont maintenus. Les entreprises, pour l'instant, rien ne change. La seule chose qui va changer ce soir à minuit, c'est que les Britanniques disparaissent des institutions européennes. Et je peux vous dire qu'à Bruxelles, quand même, on l'a beaucoup vu cette semaine.
Oui,
donc voilà, la période de transition doit servir à négocier la suite. Alors, elle doit durer jusqu'à la fin du mois de décembre, en théorie. Elle peut être prolongée 2 ans, mais Boris Johnson nous dit qu'il ne veut pas. Et là, il faut tout renégocier. Alors, tout renégocier, ça veut dire les marchandises, les services financiers, Erasmus, la recherche, la sécurité, tout ça. Alors, évidemment, on ne va pas y arriver en 11 mois, ça, on le sait déjà. Et donc, l'idée qui circule, c'est d'essayer, pendant cette période assez courte, de négocier le minimum vital. Alors, le minimum vital, du point de vue des Européens, c'est effectivement un accord de libre-échange sur les marchandises pour qu'il n'y ait ni droits de douane, ni quotas de marchandises, pour que ça soit toujours fluide avec le Royaume-Uni. Et puis, l'autre priorité des Européens, c'est de garantir l'accès aux eaux britanniques pour les pêcheurs.
Oui.
Parce
c'est
que
ça,
évidemment, on va le perdre.
Et
avec
c'est là où le bas blesse, effectivement, Isabelle Horry. Et je me tourne vers vous, Marc Owen, évidemment, journaliste de France 24, Angleterre. Vous êtes, vous, originaire de Liverpool. C'est vrai qu'un des sujets les plus houleux pour la France, c'est certainement la pêche, hein, dans la Manche. Là, ça va ferrailler dur
Oh là là, la tête que vous faites.
À ce point? Non, je connais beaucoup de gens en Angleterre qui ont voté pour le Brexit à cause de à ce sujet quoi. Ouais, c'est ça parce qu'ils regardent ce qui se passe et oui, c'est honteux que nous on ne peut pas pêcher nos propres poissons, c'est hallucinant. Mais quand on regarde un peu, on approfondit un petit peu en dessous de la surface, on trouve qu'il y a des deals derrière qui des échanges et tout ça. Donc ça brouille les pistes un petit peu.
Attendez, hein, quand même, un chiffre, est-ce que ça brouille les pistes? Si le Royaume-Uni ferme l'accès à ses eaux territoriales, ça pourrait représenter jusqu'à 80% de baisse de la pêche,
oui,
pour les Français. Ça, c'est quand même un chiffre qui ne brouille pas les pistes, qui est quand même qui se pose là.
Mais quand même, il y a des endroits comme Grimsby. Dans Grimsby, c'est dans le nord-est de l'Angleterre. Autrefois, c'était un port de pêche énorme des années 50, des années 60. Aujourd'hui, c'est quasiment un stop, quoi. Il y a très, très peu de chalutiers qui sont là, mais ils font beaucoup de travail avec des poissons qui arrivent de l'Europe, qui est distribué partout en Angleterre. Donc, leur chiffre d'affaires, ça va baisser même plus, malgré le fait qu'ils ont voté par 75% pour le Brexit.
C'est la vision d'un Anglais, en tout cas, qui nous dit ça, là, ce soir. Alors, justement, parlons à la fois du marché, des entreprises, etc. Et Franck Marguin, est-ce qu'on doit s'attendre à un flot d'entreprises londoniennes s'installant à Paris? Une espèce de débarquement?
Un débarquement, je ne pense pas. On a recensé, nous, à peu près 300 projets concrets.
Ah ouais,
oui. Très concret, qu'on a recensé, qui correspondent à peu près à 10 000 emplois. Aujourd'hui, vous avez 200... Attendez, je vous donne les bons chiffres. On a 136 projets qui ont été, actés sur à peu près une base de 5 500 emplois. Ça, c'est décidé. Certains sont déjà là, d'autres pas. Ouais. C'est décidé. Et nous pensons que cette potentiel de 10 000 emplois, c'est une réalité. Mais ce qui est plus important de comprendre pour vos auditeurs, c'est en fait l'après-Brexit, c'est toutes les entreprises internationales qui allaient à Londres avant. Maintenant, elles vont venir en Europe.
En Europe.
Et il va falloir que Paris et la région deviennent un terrain naturel d'atterrissage pour le business. Et c'est ça le challenge que nous avons.
Bien sûr. Emmanuel Dutheil, les Brexiteurs ont souvent répété ces dernières semaines, voire ces derniers mois, qu'ils voulaient faire du Royaume-Uni un Singapour aux portes de l'Europe. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que c'est dangereux pour le monde de la finance européenne?
Moi, je trouve que ça ne veut pas dire grand-chose, puisque déjà aujourd'hui, la City est la plus grosse place financière au monde. Donc, à la rigueur, Singapour peut aller se rhabiller. Et il n'y a pas de raison majeure pour que la City ne reste pas une porte d'entrée pour encore une grande partie d'entreprises qui voudraient ce côté-là-bas. Juste pour compléter sur le nombre d'entreprises, on avait parlé au démarrage du Brexit d'un débarquement. On en est, mais terriblement loin.
On a vu, on est une centaine
de 136.
Ceux qui rapatrient, vous avez des banques françaises qui en profitent pour ramener des personnels qui leur étaient pas d'une utilité folle en Grande-Bretagne. Vous avez quelques petits projets majeurs. Vous avez Bank of America, vous avez JP Morgan.
L'Agence européenne de banque qui est venue quand même.
Oui, mais ça, à la rigueur, c'est pas une entreprise qui arrive. Ça, c'est parce qu'on a gagné. Mais on est très loin. Mais pourquoi on est très loin? Uniquement parce qu'on se partage le marché. Vous en avez qui vont à Amsterdam. Vous en avez un paquet qui vont en Irlande. Vous en avez à Francfort. Vous en avez au Luxembourg. Donc, le mouvement n'est pas massif. La seule certitude, c'est que la Grande-Bretagne va rester une très grande économie aux portes de l'Union européenne. Est-ce qu'elle sera proportionnellement beaucoup plus forte demain qu'elle est aujourd'hui ou un poil moins forte? C'est ça la question. Mais il ne faut pas s'imaginer à ce que le pays sombre et à ce que le pays perde ses compétences. Il y a peut-être un doute, c'est sur l'industrie automobile. Parce qu'elle avait une industrie automobile qui commençait déjà un petit peu à défaillir. Mm-hmm. On a passé quasiment toute notre journée aux portes de l'usine Nissan de Sunderland avec Pauline Jacquot. Il faut voir que cette usine Nissan, c'était un peu l'usine de référence dans toute l'Europe. Pendant des années, ça a été l'usine quasiment la plus productive ou la plus performante, allez, je vais dire au monde, parce que soyons dans les superlatifs, mais on n'en était pas loin. Bon, là, il y a des questions qui se posent de peut-être même...
Sur l'industrie aéronautique aussi, vous avez
l'industrie aéronautique.
Les Airbus, par exemple.
Ah non, en parlant des voitures, des automobiles, il y a Honda aussi qui est à Swindon, dans l'ouest de l'Angleterre, qui est déjà fermé. On ne pas cite en Brexit, mais quelle coïncidence alors, c'est ça. Mais l'automobile, si on parle des avions, des robots et tout ça, il y a des interrogations sur ce projet aussi,
non? Très grosses interrogations, parce que vous avez finalement des chaînes d'assemblage qui se trouvaient taxées de manière interne. Donc, soit on aura des accords, ce que je pense, mais si on n'a pas d'accord, oui.
En fait, je voudrais juste qu'on se recentre un tout petit peu et qu'on soit très pratique, Marc Owen, avec vous, 2-3 minutes. Les Français habitant en Angleterre, est-ce qu'ils peuvent continuer à y vivre, à y travailler dans les mêmes conditions qu'avant le Brexit, demain?
J'espère.
Et combien de temps du
J'espère.
Coup, non, mais...
Mais je vois que M. Macron, il dit, il va défendre mes droits.
Oui,
et j'en reconnais, c'est super bien. Merci beaucoup, monsieur. ça, c'est très bien. Mais on va voir. Il faut que je devienne français. Français plutôt, parce que c'est quelque chose qui va m'aider beaucoup. Pour voyager en Europe, quoi. Il faut que je fasse
ça. C'est ça que vous voulez faire, oui.
Je viens vers une double nationalité, il faut. Hein.
Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Enfin, ce que certains ont fait en Dordogne, parce qu'il y a beaucoup d'Anglais, vous savez, en Dordogne.
Hein.
On va y aller dans un petit instant, prendre la température, parce que il y a certainement des inquiétudes. On verra, d'ailleurs, on va les interroger. À tout de suite.
Europe 1, il est 18h47. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec un grand forum spécial Brexit ce soir jusqu'à 19h. Nathalie Lévy autour de vous, Franck Marguin, président de Choose Paris Région, Marc Owen, journaliste France 24 en Angleterre, Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1 et Isabelle Horry en direct de Bruxelles.
Et une petite photo depuis la Dordogne ce soir avec vous, Tim Richardson. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller municipal d'Emmet, donc commune de Dordogne depuis 6 ans. Vous avez dû faire la demande de nationalité française pour pouvoir vous représenter, hein?
Tout à fait, mais c'était quelque chose que j'avais commencé il y a déjà quelques années. Je ne suis pas allé jusqu'au bout du dossier. Donc ça fait presque 29 ans que j'habite dans le secteur, donc c'était naturel de vouloir demander justement la double nationalité.
Savez-vous, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Anglais en Dordogne, il y a beaucoup de Britanniques comme vous qui ont demandé la double nationalité pour rester citoyen européen?
Il paraît que chez nous, pas autant que ça. Il y en a sans doute. Moi, j'en connais peu, peut-être 4 ou 5 dans le village, mais c'est pas énorme.
C'est pas énorme. Les Britanniques sont très représentés quand même. Hein. Ils représentent la première clientèle touristique étrangère en Dordogne. C'est vraiment une manne financière. Est-ce que les commerçants chez vous commencent à s'inquiètent, tout simplement, économiquement? Est-ce que la Dordogne peut se passer des Britanniques?
Je pense que non, et je pense que les Britanniques vont toujours venir en vacances ou même venir s'installer. Dans notre ville, l'économie reste assez dynamique quand même. Il y a des Britanniques qui sont aussi commerçants et pas simplement clients. Donc pour l'instant, ça se maintient. Il n'y a pas de raison, je pense, de voir des problèmes par la suite.
Pas d'inquiétude particulière, c'est ce que vous nous dites ce soir.
Et je pense que les trois années d'incertitude, c'est ça qui a fait vraiment peur aux gens. Donc maintenant, si on respecte les accords qui ont été pré-signés, il me semble, pour que les droits des citoyens soient respectés, ça ne devrait pas changer énormément de choses.
Merci beaucoup, Tim Richardson, depuis la Dordogne. Donc, Emmet, cette petite commune en Dordogne. Merci à vous. Isabelle Horry, depuis Bruxelles, on vous retrouve, Isabelle. Parce qu'on se posait la question, effectivement, des Français qui habitent en Grande-Bretagne. Est-ce qu'ils pourront continuer à y vivre, à y travailler dans les mêmes conditions qu'avant le Brexit?
Alors, tous ceux qui arriveront avant le 31 décembre de cette année, garderont les droits qu'ils avaient en tant que citoyens lorsque la Grande-Bretagne faisait partie de l'Union européenne. Ça, c'était un des grands enjeux de la négociation qui s'est achevée. Donc, tous ceux qui arrivent avant le 31 décembre, c'est bon. Et par exemple, ça concerne une catégorie particulière de personnes, c'est les étudiants. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents en ce moment qui se demandent, voilà, mes enfants, s'ils vont faire leurs études en Grande-Bretagne l'année prochaine, comment ça va se passer? Est-ce que ça va me coûter plus cher? Est-ce que c'est incertain? Non, si les enfants partent faire des études en Grande-Bretagne jusqu'au 31 décembre, eh bien, ils auront les mêmes droits qu'avant. C'est après que ça va se corser. Et après, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est totalement l'inconnu. Mais jusqu'au 31 décembre, tous les gens qui sont déjà là, qui habitent déjà en Grande-Bretagne, ils vont conserver leurs droits.
Et les touristes, pas de visa exigé?
Non, ça a aussi été réglé. Il n'y aura pas de visa pour les séjours de moins de 3 mois.
Merci Isabelle Horry. On se retrouve ici là avec Marc Owen, entre autres, avec vous Franck Marguin, également président de Paris Choose Paris Région. On va y arriver, Emmanuel Dutheil, service économique. Marc Owen, vous nous disiez tout à l'heure, les Anglais, dans une même famille, on se dispute là aujourd'hui autour du Brexit, on est opposés considérablement. Il y a quand même plus d'optimisme sur place là, à l'heure qu'il est?
Ça dépend vraiment avec qui vous parlez. Par exemple, j'étais au match il y a 2 semaines à Londres, avec mes amis, des gens que je connais depuis mon enfance. Sur ma gauche, il y a quelqu'un qui était pour, sur ma droite, quelqu'un qui était contre, vous voyez, voilà, et ils se disputent. Sans voir un point commun sur ce sujet. Donc, je crois que si on est pour le Brexit, on va racheter cet optimisme johnsonien. Ouais. Et si on est contre, on est un peu dans l'ombre. Quoi. Ouais. Et je crois que ça va être comme ça depuis plusieurs années, je crois.
Emmanuel Dutheil, il y a beaucoup de choses qui sont dites. À la fois que ça peut être vraiment une chance pour la France, voire pour l'Union européenne. Alors, c'est deux voies, hein, c'est chance ou poids.
Alors déjà, ce qui est assez impressionnant, c'est que l'Union européenne n'avait jamais réussi à se mettre d'accord ces dernières années sur un seul sujet. Là, il y a eu vraiment une unité assez impressionnante, incarnée par Michel Barnier, qui franchement, pas grand monde n'aurait parié un copec dessus au démarrage de ses négociations avec le Brexit. Donc ça, c'est déjà un point très important. Et on voit très bien là dans ce qu'Emmanuel Macron a dit dans son allocution tout à l'heure, cette idée de se servir finalement de cette sortie pour réécrire une histoire en commun. Et c'est cela qui fera que l'Union européenne fonctionnera ou ne fonctionnera pas, c'est la capacité à avoir envie de vivre ensemble et de recréer les conditions d'un bien vivre ensemble dans les années à venir. Et Isabelle Horry, qui est avec nous là en ligne, le racontait très très bien ce matin dans le journal de 8h sur Europe 1, en disant que certains font le pari que la Grande-Bretagne va réussir son pari, et du coup ça pourrait donner des envies aux autres. Il y a une sorte de peur panique à Bruxelles,
ça
mais c'est des deux
domino,
côtés. C'est-à-dire qu'il faut que l'Union Européenne réussisse s'ils veulent garder leur unité, et puis bah, Boris Johnson, s'il veut rester dans l'histoire, il faut qu'il réussisse son aventure avec le Brexit. Donc, pour être très clair et répondre à votre question, impossible aujourd'hui de savoir ce que ça demande.
Franck Margain, un mot des entreprises encore. Est-ce qu'aujourd'hui, on a comme ça dans l'idée que les entreprises financières britanniques vont rester attachées au marché européen, ou au contraire, qu'elles risquent plutôt de se tourner vers les États-Unis, les pays du Commonwealth?
Alors, vous savez, dans les entreprises financières, vous avez beaucoup de cas différents, que ce soit les banques, les compagnies d'assurance, les cabinets. Donc, ça va dépendre un peu de leur clientèle. Moi, je suis pas très inquiet. Les Anglais ont une capacité à faire du business qui est très forte. Ils s'adapteront. Ce que je voudrais reprendre, c'est ce que disait Emmanuel. Moi, ça me paraît très important. On parle beaucoup du marché des entreprises. Mais on a oublié quelque chose assez fondamental. Et ce soir, quand même, dans votre plateau, c'était l'idée de vivre ensemble. C'était l'idée de préparer la paix pour les prochaines générations. Si vous voulez, les Anglais ont quitté, mais ils n'ont pas quitté que le marché. Ils n'ont pas que quitté de la réglementation, ils ont quitté l'idée d'un projet. Et là où le président de la République effectivement a donné des mots forts, et nous en tant que politique, et j'en suis un, on doit quand même repenser l'Europe qui ne soit pas que un marché. Et ça, c'est le grand enseignement à prendre. C'est ce que je voudrais laisser en mot de conclusion, c'est de dire oui, on va s'adapter. Nous, on fait le boulot à la région pour accueillir les entreprises. Oui, on accueille des Anglais, on va accueillir des internationaux, on va faire le... Mais c'est quoi le projet qui a disparu avec le départ? Et ça, c'est important.
Marc Owen, je voudrais conclure avec vous parce qu'il y a cette période de transition qui va se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2020, donc on en a pour 11 mois. Quand on a vu là, à la fois 47 ans d'union avec les Britanniques compliqués, quand on a vu là les trois dernières années, non mais c'est vrai, hein, vous voyez, mais voilà, si, qu'est-ce qu'on se dit d'après cette période de transition?
Bah, je sais pas.
Bah,
je sais
pas. Mais comment on peut imaginer que ce soit limpide?
Mais est-ce que ça va durer 11 mois? Est-ce que ça va durer 24 mois? On ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se dérouler. C'est bizarre. J'espère qu'on peut au moins avoir un aspect de libre-échange, de marché commun, même si on est hors de ce qui se passe. Et c'est mon cœur qui parle. C'est pas, comment dirais-je, la politique de Boris Johnson, mais je ne sais pas. Mais c'est ça le problème pour moi. Le projet, on ne peut pas être plus concret que dire oui, Brexit, c'est Brexit.
Et on
ça
veut dire quoi? C'est l'un de nos principaux partenaires commerciaux. Et si je ne dis pas d'annerie, c'est l'un des seuls avec lequel on a un excédent en termes d'exportation. Donc nous, Français, on a plutôt intérêt à les garder
ménager,
comme amis de commerce.
Exactement. Bah oui. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron va y aller aussi vite que possible. Ouais. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Isabelle Horry, Franck Margain, Marc Owen, Tim Richardson qui était en ligne avec nous. Et bien sûr, Emmanuel Dutheil. Merci à vous.
Merci.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy, jusqu'à 20h avec au programme. Avec au programme nos invités, évidemment. Nous restons branchés sur le Brexit. Sébastien Krebs et Emmanuel Macron dans son journal. Vous l'entendrez évidemment dans un petit instant.
Mais votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez Nathalie Lévy.
Le Parlement européen à l'épreuve du Brexit, Nathalie Loiseau, la députée européenne En Marche, sera mon invitée à 19h10, 19h20, demain le Brexit, et puis nous serons à 19h30 en train de se pencher sur notre sommeil. Comment apaiser nos nuits et se réconcilier avec Morphée? On pose la question à notre invitée, 19h45, de la gourmandise, puisque le week-end arrive avec Pierre Arbulot de la rédaction d'Europe 1. C'est la chandeleur, on se prépare.
Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Aujourd'hui, on nous explique qu'il faut qu'ils ne soient pas en contact avec la population et ils montent avec des fenêtres ouvertes.
Près de 200 Français rapatriés de Chine s'installent ce soir à Carry-le-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône, pour deux semaines de quarantaine. Aucun n'est atteint par le coronavirus, précise à l'instant la ministre de la Santé.
Le D-Day au Royaume-Uni ce soir, minuit, le Brexit sera effectif. Un signal d'alarme historique dit ce soir Emmanuel Macron.
Dans ce journal aussi, amende record pour Airbus, plus de 3,5 milliards d'euros pour mettre fin à des enquêtes pour corruption. Et puis le foot, la fin du mercato.
Et la tendance météo, Anissa.
Demain, c'est gris sur une certaine partie de la France, un petit peu plus ensoleillé au sud et toujours des températures très très douces. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Un avion, puis quatre bus, 181 Français rapatriés sous bonne garde de Wuhan en Chine ont atterri dans les Bouches-du-Rhône en début d'après-midi. Deux passagers qui présentaient des symptômes ont été immédiatement dirigés vers l'hôpital. Ils ne sont pas atteints par le coronavirus, vient de préciser la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Les autres s'installent donc à Carril-Rouet dans un centre de vacances pour deux semaines de quarantaine.
Stéphane Frangy, vous êtes sur place. Bonsoir, et face à l'inquiétude des habitants, une réunion d'information se tient ce soir.
Oui, et ils sont attendus au tournant. On s'en rend compte, la défiance auprès de certains voisins du centre est totale. À l'image écoutée de Marina, qui a assisté tout à l'heure à l'arrivée des rapatriés.
Ils nous ont dit qu'ils allaient être mis en quarantaine, qu'il n'y aurait pas de contact avec l'extérieur, qu'ils ne sortiraient pas du camp. On a soulevé le problème des poubelles. Ils nous ont dit, mais non, on va traiter sur place. Les animaux errants, on ne sait pas comment ils vont les traiter. Peut-être qu'ils vont les abattre, on ne sait pas. Et aujourd'hui, on nous explique qu'il faut qu'ils ne soient pas en contact avec la population et ils montent avec des fenêtres ouvertes.
Voilà, une centaine de personnes assistent en ce moment même à cette réunion qui se déroule. Elle est plutôt dans le calme. Il faut dire que certains sont venus ici, non pas parce qu'ils sont particulièrement inquiets, mais pour être en mesure de relayer les bonnes informations, comme Aude, qui travaille dans un centre médical.
Du coup, je viens m'informer pour moi, pour les patients, et savoir ce qu'il en est, plus par curiosité que par peur.
Est-ce qu'on vous a posé des questions, enfin, les patients ?
Pas encore, non. Ça va arriver. Donc, il va falloir gérer.
Et les questions, vous l'imaginez, sont nombreuses. Elles concernent principalement le confinement des rapatriés, mais aussi à celui du personnel médical. Et en réponse, à plusieurs reprises, le préfet a promis l'étanchéité totale du site.
Stéphane Frangy en ligne de Carril-Rouet dans les Bouches-du-Rhône. Autres éléments communiqués aujourd'hui, plusieurs pistes de traitement sont à l'étude avec des essais cliniques qui vont commencer rapidement et l'Institut Pasteur annonce des avancées dans la mise en place d'un potentiel vaccin.
On en vient maintenant au Brexit qui sera effectif ce soir à minuit.
Nous allons à Londres dans une seconde. D'abord les mots ce soir d'Emmanuel Macron qui vient de prononcer une allocution depuis l'Élysée.
Ce départ est un choc. C'est un signal d'alarme historique qui doit retentir dans chacun de nos pays, être entendu par l'Europe tout entière et nous faire réfléchir. Car en effet, pour la première fois en 70 ans, un pays quitte l'Union européenne. Je crois très profondément que ce Brexit est possible, a été possible et rentre en vigueur dans quelques heures parce que nous avons fait de l'Europe trop souvent un bouc émissaire de nos propres difficultés parce qu'aussi, nous n'avons pas assez changé notre Europe.
Emmanuel Macron, il y a quelques minutes depuis l'Elysée.
Allons rejoindre maintenant Johanna Chabas à Londres pour Europe 1. Quelle est, Johanna, l'atmosphère ce soir à quelques heures de ce Brexit? Ce soir, les deux camps vivront la bascule, chacun dans leur coin.
Oui, d'un côté, c'est la fête chez les pro-Brexit. Entre 15 000 et 20 000 personnes vont se réunir à côté du Parlement pour écouter des discours et de la musique. Les participants sont même invités à se déguiser en personnages du Brexit. Dans les rues, on peut d'ailleurs déjà voir des Anglais coiffés comme Boris Johnson. Pour les pro-européens, la soirée va évidemment être plus triste. Plusieurs villes organisent des veillées à la bougie. À Londres, c'est à côté de la Grande Roue qu'ils vont se retrouver pour, disent-ils, être une lumière dans les ténèbres.
Et Johanna Chabas, vous êtes actuellement devant la mairie de Londres où les Européens sont spécialement conviés ce soir.
C'est une réunion d'information dans le hall où sont affichés les drapeaux de chaque pays de l'Union européenne. Les employés de la mairie sont là pour aider les habitants dans leurs démarches administratives pour rester dans la capitale. Johan, un Allemand qui vit ici depuis 6 ans, veut être rassuré.
On doit montrer qu'on est toujours à Londres, qu'on en fait partie, nous, Européens. C'est juste pour se réunir entre Européens, se soutenir. On ne veut pas avoir à partir.
Une centaine d'Européens sont attendus ce soir. Il leur reste encore 2 heures pour obtenir des réponses à toutes leurs questions.
Johanna Chabas, correspondante d'Europe 1 en ligne de Londres. Le Premier ministre Boris Johnson doit prononcer une allocution depuis Downing Street, pile à l'heure du Brexit tout à l'heure. Aujourd'hui, il s'est rendu symboliquement dans une ville du nord de l'Angleterre qui avait massivement voté pour ce Brexit.
C'est une amende record. Airbus va payer 3,6 milliards d'euros pour clore les enquêtes judiciaires qui le visent.
Une transaction annoncée aujourd'hui. Le groupe accusé de corruption va verser 2 milliards au parquet financier français, c'est du jamais vu, et le reste aux États-Unis.
États-Unis et à la Grande-Bretagne qui enquêtaient aussi. Tout cela après de longues négociations, ce que salue le procureur national financier Jean-François Bonnert.
C'est une journée historique. 3,6 milliards d'euros, c'est quelque chose comme une année de bénéfices d'Airbus. Et se dire que cette société se tire à bon compte, c'est doublement faux dans la mesure où pendant 3 ans, l'Agence française anticorruption va vérifier le programme de conformité qu'Airbus s'est imposé maintenant déjà depuis plusieurs années. Et de toute manière, la validation du processus de négociation que nous avons pu avoir avec les avocats, avec les représentants d'Airbus, trouve son épilogue naturellement dans une salle d'audience, c'est-à-dire sous le regard du public. La salle était presque pleine tout à l'heure. Et donc, dire que Airbus s'en tire à bon compte en catimini, je crois que nous sommes aujourd'hui là pour attester précisément du contraire. Je rappelle quand même qu'Airbus nous a facilité l'enquête. Si nous avons réussi en 3 ans et demi, c'est parce qu'Airbus a fait les efforts d'ouvrir ses placards, d'ouvrir ses tiroirs. Autrement, nous en serions encore à une phase d'enquête qui durerait encore des années.
Le procureur national financier au micro Europe 1 d'Alain Accot.
L'actualité des municipales avec Édouard Philippe qui lance sa campagne ce soir au Havre.
Premier ministre et candidat tête de liste dans sa ville, ce qui provoque de nombreuses réactions. Il a déjà précisé qu'il n'a pas l'intention d'être maire. Un comité d'accueil s'est formé ce soir avec des manifestants contre la réforme des retraites devant la salle où il débute son premier meeting. Et puis François Bayrou annonce qu'il est candidat à sa propre succession à la mairie de Pau.
Et 22 000 amendements, c'est un record depuis 2017, c'est ce qu'a déposé l'opposition en vue du débat à l'Assemblée sur la réforme des retraites, bataille parlementaire en vue. L'essentiel de ces amendements proviennent de la France Insoumise.
Après les accusations de la patineuse Sarah Abitbol, les aveux de son ancien entraîneur Gilles Beyer reconnaît avoir eu, je cite, « des relations intimes et inappropriées avec elle ». Il présente ses excuses.
Les sports et le foot ce soir à la fin du mercato.
Ce sera à minuit précisément. Bonsoir Julien Froment.
Bonsoir.
Petit bilan avec vous de ce mercato avec quelques confirmations. D'abord Edinson Cavani qui reste bien au PSG.
Oui, on s'en doutait, c'est désormais officiel. Le PSG, via son directeur sportif, Leonardo, a confirmé donc que Cavani finirait la saison à Paris. Il y a bien eu des contacts, la porte était bien ouverte, mais les conditions pour son transfert n'étaient pas réunies. Son entraîneur Thomas Tuchel s'en réjouit et d'ailleurs il s'est montré assez philosophe sur le sujet.
Je pense qu'il y a des situations pires dans une vie de rester au PSG et être un attaquant au PSG. Et pour ça, je pense que ça va aller vite, qu'il se sent bien et il doit regagner maintenant confiance. Et voilà, ça commence maintenant avec lui demain. Et on va voir.
Olivier Giroud, qui voulait quitter Chelsea, oui. Si on zoome sur lui, on en est où ?
Eh bien, au point mort, tout simplement. Olivier Giroud est retenu par son club anglais, Chelsea. L'attaquant français a été annoncé du côté de l'Italie, à l'Inter Milan, puis à la Lazio de Rome. Finalement, le club donc, de Chelsea bloque son transfert. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle pour lui ni pour l'équipe de France. Giroud, qui n'a joué que 12 bouts de petits matchs depuis le début de la saison, c'est bien peu pour espérer disputer l'Euro en juin prochain. Et puis, un autre champion du monde, en revanche, lui, va retrouver du temps de jeu. Ça vient d'être fait. Steven Nzonzi est prêté pour 6 mois à Rennes, en Ligue 1. Il pourrait d'ailleurs être présenté dès ce soir au Roazhon Park, juste avant le match justement entre les Rennais et le FC Nantes.
Julien Froment, merci. Rennes-Nantes, justement, c'est à 20h45, c'est la reprise de la Ligue 1, la 22e journée.
Merci beaucoup Sébastien Krebs. Je vais arriver. L'info revient à 19h30. Anissa, des températures toujours plus douces.
Oui, effectivement, les températures, vous l'avez constaté, depuis 48 heures maintenant, sont bien au-dessus des moyennes de saison. Je vous donnerai tous les détails ville par ville à la fin de ce bulletin. J'en profite juste pour vous préciser que demain, une nouvelle perturbation arrive par l'ouest avec des pluies soutenues dès le début de la journée, du Pays Basque jusqu'aux Ardennes, de la Normandie à la Gironde, donc sur une bande diagonale assez large sur la France. Demain matin, la journée commence assez arrosée, avec au fil des heures cette perturbation qui va se décaler vers l'est, avec dans l'après-midi de l'Alsace au Massif central un ciel couvert avec des pluies un petit peu moins soutenu. Au nord-ouest, le temps redevient sec à l'arrière de la perturbation, avec quelques éclaircies dans l'après-midi. Et c'est en fait au sud que vous aurez la plus belle journée du Languedoc à la Côte d'Azur après la dissipation des brumes matinales. Et bien là, la journée s'annonce lumineuse avec de belles éclaircies, surtout au bord de la Grande Bleue. Sur la Corse, attention, des petites averses sont possibles dans l'après-midi. Et puis attention, surtout dans les Alpes, si vous avez prévu d'aller skier ce week-end, le risque d'avalanche est assez élevé à cause de la pluie et à cause de la douceur des températures. Écoutez bien, demain on attend 7 à 12 degrés le matin, 11 à 18 degrés dans l'après-midi, 14 pour Paris demain après-midi, 14 pour Carquefou et Strasbourg, 15 à Saint-Pierre-d'Oléron, 17 à Toulouse, 17 à Biarritz, 15 degrés à Nice, et elles vont continuer de grimper ces températures jusqu'au moins mardi et mercredi. Nous allons perdre près de 10 degrés.
Europe 1.
À la suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec dans un instant l'interview politique.
La députée européenne En Marche, Nathalie Loiseau, dans mon invité dans un petit instant dans ce studio. Elle va faire partie du groupe d'eurodéputés qui va contrôler les négociations qui vont courir jusqu'à la fin de l'année, 31 décembre 2020. Elle s'installe dans une seconde.
Et l'interview politique de Nathalie Lévy, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, et c'est l'heure, Nathalie, de l'interview politique. Vous recevez la députée européenne En Marche, Nathalie Loiseau.
Bonsoir Nathalie Loiseau.
Bonsoir Nathalie Lévy.
Bienvenue dans ce studio. Vous allez aussi faire partie du groupe d'eurodéputés désormais qui va contrôler les négociations sur la relation future avec le Royaume-Uni. Voilà, pour être complet, alors on y est, hein. Voilà, ça y est, les dés sont jetés. 3 ans et demi après un référendum fracassant, pratiquement 52%. Les Britanniques quittent l'Union européenne. La Grande-Bretagne devient un pays tiers après 47 ans d'une intégration quand même turbulente. Hein, ça, on peut aussi le rappeler. Le divorce effectif à 23h ce soir, là-bas, minuit chez nous. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez là tout de suite maintenant ?
De la tristesse et de la détermination. De la tristesse parce que voir partir un grand pays avec lequel on a une histoire commune forte et qui nous dit finalement qu'il veut se séparer, faire autre chose différemment, loin de nous. C'est de la tristesse, de la détermination pour réussir deux choses. D'abord, convaincre les Européens que le projet européen vaut la peine, ne pas avoir un nouveau quelque chose xit un jour, et puis construire avec les Britanniques une relation future qui sera moins forte, mais dont il faut espérer qu'elle soit solide.
Vous parlez de l'Union européenne, évidemment. On a entendu Emmanuel Macron. Ce départ est un choc, a dit le président de la République il y a quelques minutes. C'est un signal d'alarme historique qui doit retentir dans chacun de nos pays, être entendu par l'Europe tout entière. En gros, il ne faut pas que ça fasse effet domino. C'est ce qu'il dit le président. C'est ce
qu'il craint. Il faut tirer les leçons. Je ne sais pas si c'est ce qu'il craint, mais il faut être capable de tirer les leçons du Brexit. Pendant 3 ans, on a regardé ce qui se passait à Londres, un peu comme on aurait regardé une série télé. On se disait, ils sont un peu excentriques, c'est incroyable, etc. On ne s'est pas beaucoup posé de questions sur nous ou sur le fond. Il y a plusieurs choses.
Vous avez douté même, pardonnez-moi, mais est-ce que vous n'avez pas douté ? Est-ce que la France n'a pas douté de la véracité et même de la détermination des Britanniques à y aller alors qu'ils y étaient allés 3 fois, lors de 3 différents suffrages ?
Alors,
vous avez douté.
Les leçons à tirer, c'est quand même que le mensonge a payé. La manipulation a payé.
Oui, mais les
simplifications
Britanniques ont voté.
Payé. Les dernières élections, celles de juste à la fin de l'année dernière, c'était quoi le projet que Boris Johnson a proposé ? C'était juste se débarrasser du Brexit, l'avoir derrière soi. Je ne sais pas si les Britanniques savent vers où ils vont. C'est toujours, donc quand on dit non à un référendum, on est nombreux à ne pas vouloir quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on est nombreux à vouloir la même chose.
J'entends bien, mais regardez, la Grande-Bretagne, elle sort quand même de l'Union européenne pour entrer dans une phase de croissance. L'Europe continentale, elle est menacée, elle, par la récession. Londres entame quand même ses négociations en position de force.
Ni la croissance, ni la position de force. Comment voulez-vous être en position de force quand vous êtes 60 millions face à 450 millions ?
Alors, il montre les muscles, c'est tout ?
Il bluffe. Comme on fait tous en début d'une négociation, on dit c'est moi le plus fort, tu vas voir ce que tu vas voir. Et Boris Johnson est quand même assez doué.
Le roi en la matière.
Il a par exemple signé avec l'Union européenne un accord de retrait, et heureusement, il a signé un accord qui était moins favorable que celui que Theresa May avait négocié, mais il avait tout fait pour qu'elle n'ait pas la majorité au Parlement pour lui prendre sa place. Il a expliqué aux Britanniques, regardez, qu'est-ce que je suis fort. Bah, finalement, il a signé exactement ce que nous voulions qu'il signe.
Nathalie Loiseau, quand même, je me pose la question aujourd'hui parce qu'on a vu Emmanuel Macron en fer de lance de cette Union européenne, très en pointe depuis des mois, depuis 2 ans. Emmanuel Macron, est-ce qu'il n'est pas le premier grand perdant du Brexit ?
Mais les premiers grands perdants du Brexit, et je ne m'en réjouis pas du tout, c'est les Britanniques. Ils choisissent l'isolement.
C'est pas ce qu'ils disent. En tout cas, les avis sont très partagés.
Mais écoutez, évidemment, puisqu'ils ont voté, mais simplement, d'abord, sont-ils d'accord entre eux, entre ceux qui veulent déréguler, faire un projet ultra-libéral, et ceux qui veulent que les territoires déshérités puissent avoir plus d'aide d'État? Pas du tout.
Oui, mais ensuite, Emmanuel Macron dans tout ça, on le voit, hein, cette mine ce soir.
Grave.
Hein, bien sûr. Et puis, cet entrain qu'il y a eu depuis 2 ans, cette détermination à pousser, à porter cette Europe, à reprendre le bâton d'Angela Merkel.
Je vais vous dire quelque chose qu'Emmanuel Macron ne vous dira pas, parce qu'il est chef de l'État et moi je suis députée et j'ai peut-être une parole plus libre. Il y a des choses qu'on pourra faire parce que les Britanniques ne sont plus là.
C'est-à-dire
les Britanniques ont toujours eu, vous l'avez dit vous-même, une relation compliquée avec l'Union européenne.
Pour le moins, une turbulente en tout cas.
Il y a des choses qu'ils ne voulaient pas. Ouais. Et depuis 3 ans, ils étaient un pied dehors, un pied dedans. On a consacré, moi quand j'étais au gouvernement, un temps infini à préparer cette séparation. Je ne regrette pas parce qu'elle s'est faite sans douleur, et que pendant les 11 mois qui viennent, personne n'y verra quoi que ce soit, ça sera comme avant, tant mieux. Mais on a beaucoup à faire, et ce qu'on a sur la table, par exemple, la transition écologique, on est prêt, la commission est prête, le conseil est prêt, le parlement est prêt, on va avancer et on va peut-être avancer plus vite.
Et vous allez avancer tellement, Nathalie Loiseau, que vous allez avoir, j'allais dire, les deux mains à l'ouvrage, le cœur avec, parce que vous allez faire partie du groupe d'eurodéputés qui va contrôler ces négociations. Quelle est la position que vous allez avoir? Comment vous allez faire pour à la fois ne pas laisser la Grande-Bretagne, encore une fois, prendre la main? On sait très bien que sur la pêche, c'est compliqué. On a donné des chiffres il y a quelques instants. Il va y avoir des sujets tendus.
Mais il y aura sujets compliqués, bien sûr. La plupart des sujets sont épouvantablement compliqués pour les Britanniques. Je vais vous donner un exemple très simple. Non pas pour minimiser la pêche, puisque c'est une des priorités. Et d'ailleurs, les Britanniques et nous sommes d'accord pour avoir réglé ce problème avant l'été 2020. Mais à l'inverse, pensez aux compagnies aériennes britanniques. Qu'est-ce qu'elles deviennent le 1er janvier 2021? Elles n'en savent rien. Elles n'ont plus aucun droit de travailler comme elles le faisaient avant dans l'Union européenne. Alors que les compagnies aériennes françaises ou européennes dans l'ensemble n'ont aucun problème à aller vers le Royaume-Uni. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est quelque chose sur quoi on est en position de force? Le but, ce n'est pas de rendre les choses impossibles. Mais ce que je veux vous dire, c'est que 27, avec la puissance qui est la nôtre, avec la détermination qui est la nôtre et l'unité qui est la nôtre, j'aimerais pas être à la place du Royaume-Uni.
Deux questions rapides, Nathalie Loiseau. Jean-Luc Mélenchon, il a beaucoup œuvré en faveur du Brexit. Son tweet, le dernier en date, le Royaume-Uni libéré de la tutelle de Bruxelles renationalise le chemin de fer que les libéraux avaient mis en chaos. L'indépendance paye. Ça date pas d'hier, ça date d'hier, mais ça date de 2016 pour Jean-Luc Mélenchon de critiquer l'Union européenne.
En même temps, c'est une double clarification. La première, c'est que bien qu'ayant été député européen, ça n'empêche pas de dire n'importe quoi. Parce que le Royaume-Uni est toujours soumis au droit européen jusqu'à la fin de l'année. Il ne nationalise pas tous les chemins de fer, de même qu'il ne les avait pas tous privatisés. En tout cas, il était libre de faire ce qu'il voulait et il l'est aujourd'hui. Donc, première erreur. Mais il y a un aveu dans ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il pense exactement la même chose que le Rassemblement National.
Et il connaît parfaitement cette institution, il est député européen. Donc
écoutez, en tout cas, il était payé par l'Union européenne, mais là, il dit 2 énormes bêtises en une seule phrase. Donc on se demande ce qu'il faisait. Mais simplement, les uns et les autres, et ils ont dit tout le contraire pendant la campagne des européennes, leur rêve, c'est de sortir de l'Union européenne. Ils l'ont caché, les masques tombent ce soir, tant mieux.
Les masques tombent ce soir, c'est ce que vous nous dites. Édouard Philippe, quand même, regardons ce qui se passe là maintenant, alors quasiment nous parlons. Il se lance dans cette campagne municipale au Havre, en tête de liste. Ouais. Allons-y, en tête de liste. Il avait la possibilité de ne pas y aller en tête, hein, mais quand même. Pourquoi cette candidature, Nathalie Loiseau?
Parce que c'est quelqu'un qui croit à sa ville, c'est quelqu'un qui est ancré dans un territoire. Moi, je pense que les politiques doivent être ancrés et doivent avoir le courage de se confronter au scrutin régulièrement.
D'accord, mais ce n'est pas Emmanuel Macron qui expliquait au début vouloir des ministres concentrés sur leurs tâches. La tête de liste, ça veut dire quoi? Il peut faire campagne et porter la réforme chaotique des retraites?
Vous avez l'impression que Édouard Philippe est quelqu'un qui a peigné à la girafe ces dernières semaines, que c'est quelqu'un qui n'a pas fait grand-chose. Il est à fond, il adore sa ville. C'est tout à son honneur. Il se met devant les électeurs. C'est courageux.
D'accord. Et s'il perd?
Et il le décide à la dernière minute. Moi, je ne pense pas une seule seconde qu'il va perdre. Je pense qu'il va gagner.
D'accord, mais quand même. S'il perd, parce que pardon, mais au Havre, c'est pas gagné. Il y a un bastion d'ouvriers incroyable. La CGT, ils sont vent debout contre la réforme des retraites. Si ça passe pas pour Édouard Philippe,
et
qu'est-ce qui se passe?
Et vous trouvez que la CGT, elle va en poupe?
Non, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais enfin, la réforme des retraites non plus. Qu'est-ce qui se passe si ça passe pas pour Édouard Philippe?
La réforme des retraites non plus. La CFDT est en train d'y travailler avec le gouvernement. Ça avance.
Vous me répondez pas, Nathalie Loiseau. Qu'est-ce qui se passe pour Édouard Philippe si ça passe pas?
Mais ça passera. J'ai aucun doute là-dessus.
C'est une forme de mini-référendum. Il a besoin de voir si il a encore confiance, si on a encore confiance en lui.
Mais pas du tout. Il aime sa ville, il y est attaché, il veut le montrer. Et puis, il ne sera pas Premier ministre pour l'éternité. C'est normal. Ce qu'il fait est normal et courageux en même temps.
Ah, il se prépare pour l'avenir, alors, c'est ce que vous me dites.
Mais il a toujours dit, et on le sait tous, quand on est au gouvernement, j'y étais, c'est pas, on ne fait pas carrière au gouvernement pour 30 ans.
Merci beaucoup Nathalie Loiseau. Les municipales, c'est du 15 au 22 mars. Le Brexit, ça y est, c'est pour 23h, minuit, en tout cas heure française. Merci beaucoup Nathalie Loiseau.
Europe 1. À suivre Nathalie Lévy sur Europe 1.
Restez avec nous, tout à fait autre chose là. Dans quelques secondes, on va apprendre à mieux dormir. Oui, vraiment. Mieux dormir, les écrans, internet, tout ça. On met tout ça de côté. On a un psychothérapeute dans ce studio qui vient nous raconter bien dormir. Ça s'apprend.
Et si vous avez vous aussi des questions sur le sommeil, n'hésitez pas, 3921 pour réagir en direct. Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Nathalie Lévy et tous les jours juste avant 19h30. Nathalie, on regarde ce qui se passe demain, on prend un temps d'avance sur Europe 1.
Toujours, et on parle encore un peu du Brexit, ce sera l'un des dossiers chauds les plus. Des futures négociations, des prochaines semaines entre l'Union Européenne et la Grande-Bretagne. De quoi parle-t-on ? De la pêche. Bonsoir Lionel Gougelot.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche français. On est très inquiet de l'interdiction qui pourrait être faite aux pêcheurs de pêcher dans les eaux britanniques. Hein.
Oui, on le dit depuis longtemps hein, d'ailleurs, parce que cette zone de pêche, elle est vitale pour les pêcheurs boulonnais. Ils y capturent 75% en moyenne de leur prise. Et si jamais la Grande-Bretagne, sortie de l'Europe, leur interdit à ces pêcheurs l'accès à ces zones poissonneuses, eh bien ce sera tout simplement une catastrophe hein, pour la pêche des Hauts-de-France, mais aussi pour les Normands et les Bretons. Alors, en ce jour de Brexit, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, tire à nouveau le signal d'alarme et il demande que dès demain, sur ce dossier, l'Europe soit très ferme vis-à-vis de la Grande-Bretagne.
Moi, je demande au gouvernement et à l'Union européenne, dès maintenant, de dire aux Britanniques la chose suivante. On ne peut plus pêcher chez vous, vous ne pêchez plus chez nous, mais en plus, vous ne transformez pas le poisson chez nous. Et là, ça va leur coûter beaucoup plus cher d'aller transformer le poisson dans le nord de l'Europe ou de créer une filière de transformation. Alors moi, je suis désolé, je suis plutôt sympa avec les Britanniques. Mais sur le coup de la pêche, si eux ne sont pas accommodants et veulent pas trouver une solution, on va pas rester sympa.
Alors c'est la logique du bras de fer hein, que prône Xavier Bertrand, si oui, je comprends tout.
Effectivement, vous l'avez bien entendu, parce que l'objectif en fait c'est de faire comprendre à la Grande-Bretagne qu'elle n'aurait rien à gagner à fermer ses zones de pêche, parce que si c'était le cas, il faut imaginer la concurrence féroce que se livreraient les pêcheurs français, belges et néerlandais dans une zone de pêche amputée de moitié dans la Manche. Ce serait la guerre, me disait récemment un pêcheur de Boulogne-sur-Mer, à tel point que certains, comme le maire de Boulogne d'ailleurs, imaginent la création d'une nouvelle force de régulation des espèces de casques bleus de la mer pour prévenir les conflits.
Alors, merci beaucoup Lionel Gougelot. On va suivre ça de près dans les Hauts-de-France. Merci à vous. Demain le Brexit, toute la semaine, on vous a raconté, et en musique, l'histoire folle de cette désunion européenne. Bonsoir Emmanuel Calafiore.
Bonsoir Nathalie.
Ce soir, This is the end.
I feel it in my finger. 1994, exit Margaret Thatcher, hello John Major. L'amour est partout, comme le chante le groupe Wet Wet Wet. Les Britanniques offrent à l'Europe Hugh Grant via le carton planétaire de 4 mariages et un enterrement. En échange, l'Europe leur offre un tunnel.
Au cours du siècle présent, au plus dur de l'épreuve, la conjugaison de l'élan français et du pragmatisme britannique a fait merveille. Le tunnel proclame cette vérité simple. Continuons aujourd'hui à faire cause commune pour le bénéfice de l'humanité tout entière.
Le 6 mai 1994, le Royaume-Uni est relié au continent. L'amour, enfin. Mais 2 ans plus tard, les travaillistes évoquent un référendum sur l'Union européenne pour passer à la monnaie unique. En 2015, le Premier ministre David Cameron promet ce référendum s'il gagne les législatives, quand le Royaume-Uni a une idée fixe.
Pour le Premier ministre britannique, il est temps que ses concitoyens se prononcent sur cette question qui fait largement débat.
C'est pourquoi je suis pour un référendum. Il faut se confronter à la question européenne, prendre la tête des débats et non pas simplement espérer que le problème disparaisse de lui-même.
Et c'est la victoire du Parti conservateur de David Cameron.
Oui, et il tient sa promesse. Il organise le référendum sur le maintien ou la sortie de l'UE. Le 23 juin, quand les résultats tombent, c'est un tremblement de terre.
Les Anglais ont donc voté oui à la sortie de l'Union européenne. Les résultats définitifs sont de 51,9% en faveur du Brexit. Première conséquence politique en Grande-Bretagne, le Premier ministre conservateur David Cameron, qui avait mené campagne pour le maintien au sein de l'Union, annonce son intention de démissionner. On l'écoute.
Ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère, mais c'est dans l'intérêt du pays d'avoir une période de stabilité et il faut donc un nouveau leadership.
Le 29 mars 2017, Theresa May, nouvelle première ministre, déclenche l'article 50 du traité de Lisbonne. Il permet à un pays de quitter l'Union européenne. Commence alors l'interminable feuilleton Brexit qui aura raison de cette première ministre. L'excentrique Boris Johnson la remplace, il organise des législatives qui lui donnent une majorité absolue et le 12 décembre 2019, il active enfin le Brexit. Comme le chante Kylie Minogue, certains Britanniques aimeraient bien remonter le temps, mais ce soir à 23h, heure anglaise, le Royaume-Uni, plus que jamais désuni, quitte officiellement l'Union européenne.
Et voilà, c'est terminé, rideau, donc ce soir, vous l'avez compris. Merci beaucoup, Emmanuel Calafiore.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite du programme, Nathalie Lévy.
Le rappel des titres est juste après 19h30. Notre sommeil soumis à rude épreuve. Et si on se réconcilie avec Morphée, comment mieux dormir? Il arrive dans un instant, le psychothérapeute Benjamin Lubzinski. Il vient de publier un livre, Bien dormir, ça s'apprend, aux éditions du Rocher.
Votre grand journal du soir, c'est avec Nathalie Lévy, tous les jours sur Europe 1. 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec votre rappel des titres, Lénaïque Lemonnier.
Un signal d'alarme historique, un jour triste, les mots graves et solennels d'Emmanuel Macron à quelques heures désormais du Brexit. Le mariage entre les Britanniques et les Européens aura duré 47 ans. À minuit, heure française, il sera terminé. Les premiers Français rapatriés de Wuhan sont arrivés à Carry-le-Rouet, près de Marseille. Ils vont y rester 14 jours. Les deux personnes suspectées d'être atteintes du virus ne sont en fait pas infectées. Après un aller-retour à l'hôpital, elles sont retournées au centre. Édouard Philippe, candidat à la mairie du Havre, ville où il a construit son parcours politique. S'il est élu, il ne quittera pas pour autant Matignon. François Bayrou a fait acte aussi de candidature à Pau, dont il est le maire sortant. Les aveux de l'ancien entraîneur de Sarah Abitbol après les accusations de la patineuse, Gilles Beyer reconnaît avoir eu des relations intimes et inappropriées avec elle. Il lui présente ses excuses, Sarah Abitbol qui évoquait une période entre ses 15 et ses 17 ans.
Merci beaucoup Lénaïque Monnier. Du côté du temps, encore des nuages et de la pluie, Anissa.
Oui, alors on va résumer rapidement la situation. Si vous nous écoutez sur le Languedoc-Roussillon et le long de la Méditerranée, demain vous aurez une belle journée partout ailleurs. Ce sont des nuages avec d'abord à l'ouest de la pluie, avec cette perturbation qui arrive et qui va se décaler vers l'est, donc pratiquement de la pluie pour tout le monde, mais ça sera à des moments décalés dans la journée. Les températures, 2 au Puy-en-Velay, 4 à Aubenas, 9 à Besançon. Dans l'après-midi, nous aurons 12 à Lille, 14 à Paris, 17 à Toulouse.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec votre invité. Et nous allons apprendre à mieux dormir.
Et oui, quoi de mieux un vendredi soir, veille de week-end. Bonsoir à vous, Benjamin Lubzinski.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être dans notre studio ce soir. Vous êtes praticien en psychothérapie et vous avez là écrit ce livre, Bien dormir. Ça s'apprend, 2 mois de programme pour retrouver le sommeil. C'est aux éditions du Rocher. Alors voilà, bien dormir, ça s'apprend, c'est vrai. Bah, et en quelques leçons à peine?
Oh, en 8 semaines de leçons, c'est un vrai programme, il va falloir travailler dur.
Ah ouais.
Il faut bien, avec ce livre...
Il faut quand même discipliné.
Ah oui, on ne vous promet pas de miracle, hein. C'est 8 semaines, il y a un programme de semaine en semaine, on doit travailler au moins une demi-heure par jour, mais on y arrive. La première semaine, on réapprend à être calme dans son corps avec la relaxation. Ensuite, on apprend à arrêter de se prendre la tête, c'est tellement important. Et puis surtout, il y a un outil qui est formidable que j'utilise sur ma chaîne YouTube, c'est l'hypnose.
Oui.
Et l'hypnose, c'est un outil idéal pour permettre de passer d'un état de contrôle, de veille, à un état de lâcher prise, où on est bien, on arrête de penser, puis finalement, on arrête de penser, on s'endort.
Ah bah alors vous voyez, ça a l'air si simple finalement, il n'y a peut-être pas besoin de 8 semaines. Non, je plaisante à peine, mais je voudrais juste effectivement rappeler cette chaîne, ça fait 10 ans, que vous partagez des vidéos comme ça sur l'hypnose, vous proposez comme ça de résoudre des problèmes d'insomnie, des vidéos qui qui fonctionne très très bien. Il y a des conseils très pratiques si on n'a pas la patience d'avoir si on n'a pas la patience d'attendre 8 semaines. Il y a quand même des conseils très pratiques que vous donnez, des éléments très concrets qu'on peut appliquer déjà pour améliorer les choses.
Ah oui, tout à fait. Il y a déjà toutes les erreurs qu'on peut éviter de faire. Si on essaie de se coucher à peu près à la même heure, le sommeil s'améliore, on s'endort plus facilement, on peut éviter la lumière bleue des téléphones et autres écrans avant de s'endormir. Mais surtout, ce qu'on peut faire avec le livre, c'est utiliser l'hypnose. Et si vous écoutez l'hypnose, même si vous n'y croyez pas d'ailleurs, ça vous détend suffisamment pour vous endormir. Ouais. Donc ça, c'est une aide concrète dès le départ. Ça permet de se dire, je pensais que j'étais insomniaque, je pensais que c'était définitif. Et là, tiens, c'est bizarre, j'arrive à dormir. Il y a quand même une possibilité.
On entend depuis qu'on est gamin, pratiquement, qu'il faut dormir 8 heures. 8 heures par nuit, que c'est vraiment 8 heures. Alors on se dit, 8 heures, est-ce que c'est véritablement... C'est juste pour dire un chiffre. Mais vous le confirmez. 8 heures, c'est ce qui véritablement convient à l'individu, à l'être humain.
Oui, c'est 8 heures en moyenne. Pour la plus grande majorité des gens, c'est le cas. Ça peut parfois être plus ou moins une heure. Mais 8 heures, c'est très important parce que sinon, on compense par la nourriture. Donc, ça augmente l'obésité de mal dormir. Mmh. On est stressé, ça augmente le risque de dépression, ça augmente le risque cardiaque. En fait, pratiquement tous les problèmes qu'on peut avoir peuvent être liés au sommeil.
Oui, mais on se rend bien compte qu'on est peu à pouvoir dormir 8 heures par nuit. Mais alors, comment on fait ?
Ah, mais c'est un vrai luxe pour lequel il faut se battre. On a perdu 1h15 de sommeil en 30 ans. Avant, on dormait 8 heures. Maintenant, on dort 6h45.
Vous dormez combien d'heures par nuit ?
Moi, je dors 8 heures par nuit.
Parce que, évidemment, vous appliquez votre process.
Parce que je m'arrange pour pouvoir me lever un petit peu plus tard. Parce que mon métier me le permet.
Donc, il faut dormir avant minuit. Le sommeil d'avant minuit est plus récupéré, est meilleur que le sommeil d'après-midi.
Les premières heures de sommeil sont les meilleures parce que c'est là que vous aurez le plus de sommeil lent et profond. C'est là qu'on récupère. C'est là aussi que la mémoire court terme passe dans la mémoire long terme. Donc, vraiment, ce sommeil, ce début de nuit est à privilégier. Il ne faut surtout pas le renier, c'est primordial. Mmh.
Donnez-nous quelques conseils là, ce soir, parce qu'on est à la veille du week-end. On se couche souvent plus tard d'ailleurs le week-end. Il vaut mieux essayer de se coucher à la même heure, c'est ce que vous nous disiez. La chambre plus fraîche, ça fait partie quand même des évidences. Oui. La luminothérapie aussi, je crois.
Une chambre plus fraîche, ne serait-ce qu'une chambre à 19 degrés, on doit perdre 1 degré pour pouvoir s'endormir, 1 degré de chaleur corporelle. Ouais. Donc c'est très important. La luminothérapie peut aussi être une très bonne chose, c'est parce que, en fait, ce qui nous permet de nous endormir, c'est la mélatonine qu'il y a dans le corps. Et si on l'inhibe le matin en utilisant une lumière de luminothérapie, tout simplement, eh bien le soir, on s'endort beaucoup plus facilement. Donc, c'est vraiment quelque chose à tenter pour tous les couches tard, pour tous ceux qui n'arrivent pas à s'endormir avant 1h, 2h, 3h du matin. Souvent, c'est parce que leur horloge biologique, leur rythme circadien est déréglé. Et la luminothérapie permet de re-régler ça.
Alors, Benjamin Lubzinski, Bien dormir, ça s'apprend aux éditions du Rocher et puis la chaîne YouTube qui va avec et qui cartonne, qui fait dormir 200 000 personnes par mois. Et ben, on a plein de questions d'auditeurs. Ils sont tous là. Ils vont vous interroger dans un instant.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy et son invitée Nathalie. Aujourd'hui, on s'apaise et on prend le temps de bien dormir.
Il faut 8 heures, Anissa. Sinon, ça ne va pas le faire. Et les Français dorment en moyenne 6h45 par nuit. Donc, il reste 1h15 à aller trouver. Il faut se coucher plus tôt, nous dit Benjamin Lubzinski. En principe, et sinon il y a d'autres méthodes, on venait en parler, ça s'appelle Bien dormir, ça prend 2 mois de programme pour retrouver le sommeil avec le CD qui va avec, et c'est aux éditions du Rocher, et les auditeurs évidemment qui veulent vous interroger ce soir, notamment Adam qui nous appelle de Paris. Bonsoir Adam.
Bonsoir.
Bienvenue, on vous écoute.
Merci. Alors moi j'ai mon emploi du temps au boulot qui va être amené à évoluer, et du coup le seul moment où je vais pouvoir faire du sport, ça va être le soir. Et j'aurais voulu savoir si ça pouvait avoir une incidence sur si le fait d'avoir une activité physique, ça pouvait avoir une incidence sur mon sommeil. Si
en général, oui, malheureusement, si vous faites du sport trop tard, ça va retarder le moment où vous allez pouvoir vous endormir et vous aurez un sommeil de moins bonne qualité. Il faut faire du sport. On va dire, si on se couche par exemple à 22h, il ne faut pas faire de sport après 16h par exemple. Donc oui, c'est un risque.
Il faut le temps que ça redescende, c'est ça.
Malgré tout, vous avez des contre-exemples. Vous êtes des gens qui arrivent à faire du sport et qui arrivent à s'endormir ensuite. Donc si vous voyez que ça marche pour vous, n'hésitez pas à le faire. En revanche, si c'est un effet délétère sur votre sommeil, évidemment, vous saurez que ça vient de là et il faut éviter.
Voilà, donc, pour cette question, on espère vous avoir éclairé. Donc, il faut renoncer. Enfin, peut-être certains sports, plus non.
Pour une fois, avoir une bonne excuse pour renoncer au sport, c'est quand même idéal. Hein.
Dites-moi, Benjamin Lubiszynski, pourquoi les Français dorment si mal, selon vous? Parce qu'on est à 6h45, compris.
Déjà, les Français ont de plus en plus de trajets entre leur travail et leur maison. Et puis, ils passent de plus en plus de temps devant les écrans. Donc,
Que les Français, d'ailleurs.
Oh non, c'est international. On peut binge-watcher jusqu'au bout de la nuit, regarder des séries les unes après les autres. Et ça, évidemment, c'est mauvais pour le sommeil. Donc, on négocie avec son sommeil. C'est la variable d'ajustement, alors qu'on ne devrait pas négocier avec son sommeil.
Et sur le long terme, parce qu'on dort mal une nuit, deux nuits, cinq nuits, dix nuits, deux ans. Mais sur le long terme, est-ce que ça a des conséquences sur notre santé, sur notre morale aussi?
Bien sûr, il y a déjà un risque immédiat. Le stress, l'anxiété augmente, la dépression augmente également. Et puis, il y a des risques de diabète, des risques cardiaques. Non, c'est un vrai problème de santé. Et si on faisait une campagne nationale, j'aimerais bien que ce soit une cause nationale, le sommeil, dormez, je le veux vraiment. Eh bien, c'est sûr que la sécurité sociale ferait de belles économies. Et puis surtout, les Français et les Françaises vivraient mieux, plus heureux, plus calme, avec plus d'énergie, ils réussiraient mieux dans leurs études. Bah, ça ne s'arrête pas.
Le sommeil, c'est quand même une clé, donc c'est vraiment un fondamental. Alors, du côté des tweets, Anissa.
Oui, on a un tweet de Laura avec le hashtag Europe 1 qui dit « Moi, je travaille en horaire décalé, quelquefois la nuit, quelquefois le jour. Je suis infirmière. Est-ce que je peux couper mes 8 heures de sommeil en plusieurs fractions dans la journée ?»
Alors, en plusieurs fractions, non, mais ce qui existe, c'est le sommeil biphasique. C'est de dormir, par exemple, entre 4h et 8h du matin, et ensuite dormir de 13h à 17h, quelque chose comme ça. C'est le type de sommeil qu'on a en Espagne ou dans les pays du Maghreb, où évidemment la chaleur empêche de dormir à certaines heures, la chaleur ne permet que de dormir à certaines heures, et c'est un sommeil qui est fonctionnel. Le problème, c'est que si elle dort une fois la nuit, une fois le jour, etc., peut-être qu'elle n'arrivera pas à avoir ce sommeil biphasique. Et dans ce cas, c'est bien de consulter un médecin qui pourra essayer au plus près de limiter la casse. Mais on parle beaucoup de pénibilité en ce moment avec la retraite. Mais les métiers de nuit ou les métiers, les 3-8, c'est vraiment très, très mauvais pour le sommeil. Ça use très vite et les risques pour la santé sont bien réels.
Dans la lignée, dans le prolongement, pardonnez-moi, dans le prolongement de la question, si on dort 8 heures, mais qu'on dort ces 8 heures de 2 heures du matin à 10 heures, est-ce que comme on a le compte des 8 heures,
ça passera. Ce sera de moins grande qualité, mais ça passera.
Mais ça passe. Une question de nouveau. Selma, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en région parisienne, vous nous appelez ce soir, bienvenue.
Merci.
On vous écoute.
Alors, je souhaiterais savoir comment faire pour éviter les paralysies du sommeil.
Oh. C'est encore autre chose.
C'est un vrai problème médical. Il faut que vous en parliez à votre médecin et un spécialiste du sommeil. Il n'y a pas grand-chose à faire. En général, ce qu'on peut faire du côté de la psychothérapie, c'est apprendre à ne pas être angoissé par les paralysies du sommeil. Est-ce qu'en deux mots, vous pouvez nous décrire ce que c'est qu'une paralysie du sommeil?
Parce qu'il y a les apnées du sommeil et les paralysies du sommeil, c'est pas la même chose.
Et ce sont deux problèmes qui sont graves. Le premier n'est pas très dangereux pour la santé. Il est très impressionnant, la paralysie du sommeil. C'est on se réveille la nuit, on est conscient, mais on n'arrive plus à bouger. Et puis en général, on a un sentiment d'angoisse totale. On n'arrive pas à sortir du sommeil. Et donc, en thérapie, on apprend à être calme, à garder son calme pendant ces quelques secondes. Et puis ensuite, la médecine permet de limiter un petit peu les symptômes, mais il n'y a rien de brillant là-dessus. Mais ce n'est pas dangereux pour la santé. Alors que l'apnée du sommeil, ça, c'est un tueur silencieux. Imaginez quand même que les hommes en surpoids, 2 fois sur 3, font de l'apnée du sommeil. Or, quand on fait de l'apnée du sommeil, c'est des risques cardiaques quasi assurés. Donc, il faudrait qu'il y ait un dépistage quasi systématique chez tous les hommes ou toutes les personnes en surpoids. Et ce n'est pas encore le cas. Pareil, on éviterait des drames, on économiserait de l'argent pour la sécurité sociale. Ce serait une vraie bonne chose.
Merci beaucoup, Selma, pour votre question et votre appel. Encore une ou deux questions avec vous, Benjamin Lubiszynski. Les enfants, ils commencent les cours très tôt. En moyenne, 8h30, ils sont en classe en France, qui les amène souvent à être réveillés vers 7h moins le quart. C'est trop tôt.
C'est beaucoup, beaucoup trop tôt. Tous les parents se plaignent de voir leurs enfants fatigués, mais c'est parce qu'ils ne dorment pas suffisamment. Il y a une expérience aux États-Unis, on a fait rentrer des élèves simplement une heure plus tard. Et leurs notes ont considérablement augmenté. Donc, si on veut que nos enfants réussissent à l'école...
Mais pourtant, on nous dit que le matin, ils sont plus alertes et que le cerveau fonctionne mieux. Enfin, il y a quand même eu des...
Oui, s'ils dorment suffisamment. Ouais. Mais en général, s'ils se lèvent trop tôt, ils n'ont pas suffisamment d'heures de sommeil. Et là, ils ne vont pas être... C'est pas le moment où ils vont être le mieux. C'est-à-dire, le matin, en soi, est un moment où ils sont plus alertes. Mais globalement, parce qu'ils manquent de sommeil, ils vont être sur toute la journée beaucoup moins efficaces, beaucoup moins concentrés. Mmh. Et il n'y a qu'à voir l'état dans lequel on reçoit nos enfants le soir. C'est, vous savez, quand votre enfant est tout mou, qu'il
ou
parle
très
dans
énervé,
tous les
soirs, ou très énervé, au exactement. Contraire. Oui. Bon, merci beaucoup Benjamin Lubzinski. Bien dormir, ça s'apprend. 2 mois de programme, donc 8 semaines hein, pour retrouver le sommeil. Et vous avez aussi votre chaîne YouTube. Vous avez réussi déjà à faire dormir 200 000 personnes par mois. Donc l'hypnose pour démarrer semaine 1, semaine 2... toujours jusqu'à la semaine 4, hein, en gros. Et puis la méditation, la relaxation, vous redonnez de la valeur hein, à la relaxation. Vous dites même que ça a été... C'est dommage, finalement, qu'on ait malmené cette action. Il faut continuer.
La relaxation, ça apprend à être suffisamment calme pour s'endormir.
Voilà, et la méditation. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir. On va rester ensemble dans un petit instant et déguster.
Bah oui, le vendredi on déguste et dimanche c'est la Chandeleur. Voilà, c'est le premier indice pour savoir ce qu'on va manger dans un instant sur Europe 1, votre grand journal du soir. C'est avec Nathalie Lévy jusqu'à 20h.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Nathalie Lévy. On va dans un instant bien sûr passer à table comme chaque vendredi, mais avant cela on parle culture. Avec la playlist du 18-20, qu'est-ce qu'on s'écoute ce soir, Nathalie ?
Le tout nouveau single du chanteur perpignanais Kali, Viens à moi.
Viens avec moi, je veux garder l'enfant, je veux garder la joie, je veux garder le feu et le frisson qui court et séduire une femme. Regardez les étoiles qui tombent dans nos yeux. Viens avec moi, viens avec moi. Regardez les étoiles qui tombent dans nos yeux. Et donnez-nous du vent, donnez-nous du soleil, donnez-nous de l'été. Et puis je fais en vœu, regardez les étoiles qu'elles tombent dans mes yeux.
Et toute nouvelle chanson de Kali pour annoncer la sortie de son 9e album studio Caval qui sortira le 13 mars prochain, accompagné d'un livre et d'un court-métrage. Je ne fais pas les choses à moitié. Kali partira en tournée avec une date à Paris le 24 avril.
Et prochain titre à découvrir dans la playlist du 18-20, ça sera lundi, bien sûr, à la même heure. Et le vendredi, vous le savez, on passe en mode week-end. On met les pieds sous la table, place à la gastronomie. Et au menu de ce soir, on prend, allez, 48 heures d'avance.
Et un kilo
crêpes,
déjà.
Des crêpes pour la Chandeleur avec Pierre Herbulot.
On a déjà pris un kilo rien qu'en regardant.
Oh et non.
En humant. Bonsoir Pierre Herbulot.
Bonsoir Nathalie.
Bienvenue. Alors, on sait tous que la Chandeleur, c'est dimanche, en effet, et qu'on va manger des crêpes. Mais on ne sait pas pourquoi, hein. On va le dire,
non.
On va l'avouer.
Alors, il y a un tas d'hypothèses autour des crêpes et de la Chandeleur. Il y avait cette très vieille fête païenne pour célébrer l'allongement du jour et donc un commerce plus prospère. On y mangeait des genres de crêpes censées symboliser le soleil. On fête aussi la Chandeleur dans la religion chrétienne à partir du 5e siècle. Là, c'est la présentation de l'enfant Jésus, 40 jours après Noël, que l'on célèbre. Le pape Gélase Ier fait distribuer des galettes de céréales aux pèlerins de Rome. Alors aujourd'hui, on va pas se mentir, hein, la Chandeleur, c'est juste une soirée crêpe en famille.
Oui, c'est ça, c'est festif.
Ou entre amis, voilà. Ou alors l'occasion hein, pour les grandes enseignes de vendre du sucre, de la confiture et du nu. Voilà, on avait compris. Alors il reste des superstitions encore aujourd'hui autour de cette fête. Une bonne récolte pour les agriculteurs qui conserveraient quelques crêpes dans une armoire ou encore la prospérité à celui qui saura faire sauter la première crêpe de
avec
la main
une
droite,
pièce dans la main.
Avec une pièce d'or dans la main gauche.
C'est important.
Voilà, j'ai pas testé, je suis sûr qu'on peut inverser les mains, le résultat est le même.
On teste juste après. Bon, alors, vous nous avez apporté des crêpes, Pierre, évidemment, parce qu'on est sympa. Une
absolument.
Recette un peu originale. Hein,
ouais. Voilà, c'est une recette...
exactement ce qu'on a devant nous.
Alors, c'est des crêpes classiques, mais parfumées à l'orange et à la fève de tonka. Alors, la fève de tonka, c'est le fruit séché d'un arbre d'Amérique du Sud. C'est une recette que j'ai piquée à la pâtissière Nina Métayer. Je vais vous mettre la recette sur le compte Twitter d'Europe 1. On la mettra ensuite sur le site ce week-end. En deux mots, bon, c'est du lait, de la crème. De la fève de tonka, du zeste et du jus d'orange ou de mandarine. Mm-hmm. Et puis à côté, vous mélangez farine, sel, sucre, des œufs, un peu de rhum et puis du beurre noisette. Et puis ensuite,
c'est plus facile que la recette crêpe classique.
C'est exactement pareil. Juste faut acheter de la fève de tonka et zester un peu de mandarine et mettre un peu de jus dedans. Mais c'est exactement pareil. Et puis, je ne sais pas si vous les avez goûtées. Elles sont
très bonnes.
En fait. Elles sont déjà parfumées.
Parfumées, exactement. Il y a l'arôme, on sent. Donc, effectivement, pas besoin d'en rajouter, sauf qu'on a quand même envie d'en rajouter. Oui. Et d'autant que vous nous avez mis sous le nez des petites choses, mais alors fort appétissantes.
Oh là là.
Alors, allons-y franchement. Allons-y franchement, qu'est-ce qu'on a ici?
Alors, je vous ai apporté de la pâte à tartiner aux noisettes.
Aux noisettes.
Allez, noisettes du Piémont.
Ça, c'est dangereux.
Elle est mortelle.
Telle que je le pense, c'est dangereux.
C'est dangereux. Il y a aussi un autre truc qui n'est pas moins dangereux quand même, c'est de la confiture de lait au caramel,
beurre salé. Exactement.
Voilà, et alors c'est fait par un chocolatier glacier qui s'appelle Pierre Chauvet.
Qu'on cite évidemment, et pas seulement, parce que Pierre Chauvet, on le remercie. Enfin, je sais pas si on le remercie, parce que là j'ai pris un kilo simplement avec deux cuillères. Bonsoir Pierre Chauvet.
Bonsoir.
Non, c'est merveilleux, évidemment, c'est une petite merveille ce que vous nous avez proposé là. Vous êtes glacier, chocolatier, pâtissier, et donc il y a cette pâte à tartiner maison. Évidemment, ouais. C'est meilleur que tout, meilleur que d'autres en l'occurrence.
Ben, ça fait 20 ans qu'on l'a créé et c'est vrai que on en fabrique tout le temps. Voilà, c'est un produit phare de la maison, comme on dit.
Est-ce que c'est possible de la faire soi-même, la pâte à tartiner? Alors la vôtre est formidable, on vient de la goûter, mais est-ce que c'est possible de la faire à la maison?
Il faut, oui, c'est simple. Hein. Un petit robot coupe, Masterchef, peu importe, des noisettes, on grille les noisettes, on met du sucre glace, un peu de cacao, on broie tout ça et puis on obtient une pâte à tartiner. Ouais, c'est pas très compliqué. Hein,
aussi alors, simple que ça.
Ouais, Pierre Chauvet, sur la vôtre, je retourne le pot derrière, je vois noisettes du Piémont, 43%. Les noisettes du Piémont, tout le monde dit que c'est les meilleures noisettes. Pourquoi c'est les meilleures?
Alors en fait, vous avez plusieurs variétés de noisettes, la noisette du Levant qui est en fait une région de la Turquie, l'Italie c'est la Romaine et la Piémont. Et la Piémont, elle a aussi une facilité à enlever la peau, voilà, donc quand on la torréfie, elle est belle aussi de forme, et quand on la torréfie, elle a des arômes qui vont se développer de douceur, et c'est vrai que c'est le top du top, quoi.
Ouais,
voilà.
Ouais, c'est ça.
Et après, c'est aussi une des noisettes, la production, c'est pas la plus grosse production, c'est la noisette du Levant en Turquie. Mmh. Voilà.
Et ce qu'il faut ajouter, et c'est vrai que Pierre Bulot me le signale, il n'y a pas de sucre.
Et il y a dans notre pâte à tartiner, il y a très peu de sucre. Oui. Voilà.
Ouais, ouais. Et donc ça,
c'est pas mal du derrière.
C'est quand même la force. C'est quand même la force du produit. Un mot également de ce caramel beurre salé, un fondamental, j'ai envie de dire, confiture de lait. Ça, c'est un incontournable de la crêpe, une association parfaite. On est sur un produit là aussi qui est 100% naturel avec vous.
Ah oui, complètement. Et alors, comme on est chocolatier, on a rajouté du chocolat au lait pour lui donner une gourmandise un peu différente. Voilà.
Ça manquait un peu la gourmandise. Hein.
Voilà. Ouais. Merci beaucoup Pierre Chauvet.
Je vous en prie, en tout cas, la Chandeleur, c'est un beau moment de famille et je pense qu'il faut bien profiter de ce week-end pour aller chez tous les artisans chocolatiers, glaciers, pâtissiers pour acheter une bonne pâte à tartiner artisanale et se faire plaisir. Voilà.
Merci beaucoup. Bah, en tout cas, on va en tout cas déjà se délecter avec vos bons produits et puis rappeler évidemment que vous êtes glacier, chocolatier, pâtissier.
Dans le sud de la France, à Aubenas.
À Aubenas, dans le sud de la France, on salue la région. Merci beaucoup, Pierre Chauvet, d'avoir été avec nous ce soir en direct. Pierre Herbulot, ces crêpes, elles sont sympathiques,
elles sont
appétissantes, elles sont bien garnies. On a ce qu'il faut là pour partir en week-end. Il y en a pour tout le monde. Toute l'équipe est là derrière la vitre. Je peux vous dire qu'ils ont
peur. Ils attendent 20h là.
Merci beaucoup, Pierre.
Merci.
Émilie Mazoyer, un petit peu d'apéritif sucré.
Mais c'est pas la peine de m'engueuler, j'ai eu froid.
Mais non, je voulais vous inviter à notre apéro sucré, nous.
Mais évidemment, vous savez que moi, je suis toujours présente pour ce genre d'événement très important pour la vie de l'entreprise.
Bien sûr.
J'arrive.
Avant ça, donnez-nous un petit peu l'idée de votre programme.
L'idée de musique ce soir, c'est de recevoir un garçon qui vit, qui pense, qui mange et qui travaille pour la Soul Music. Il s'appelle Nicolas Ternier, c'est le rédacteur en chef de Soul Bag Magazine. Un vrai soulman. Soulbag, c'est un magnifique magazine de soul music fabriqué en France par des passionnés Et notamment, bah là, dans le nouveau numéro, il y a une interview de l'artiste soul le plus demandé de l'internet en ce moment, c'est Michael Kiwanuka. Et on va en parler tout à l'heure avec Nicolas Ternier.
Très bien, j'adore. Je suis très soul music. Ça, c'est oui. Un truc que j'aime.
Et ça va bien avec le sucré.
Pour une fois, oui, tout à fait.
Voilà, ça exactement. Va pas mal.
Merci beaucoup, Émilie Mazoyer. On vous en garde un petit peu. On vous souhaite une belle émission. On vous remercie à tous, vous, les auditeurs, de nous être fidèles. Toute l'équipe au complet, évidemment. On se dit lundi, même jour, même endroit, même heure, 18h, 20h pour votre grand journal du soir pour de l'info et du sourire. Et bien entendu, Anissa, pour écouter
Le Monde Changé. À lundi, c'était Nathalie Lévy.
À lundi, belle soirée.